Nous allons réciter quelques prières, comme il est de coutume dans notre tradition, de façon à pouvoir prendre refuge dans le Bouddha, dans le Dharma et dans la communauté. Dagingi soni besanam ge dora benche sanje do boisho. Tanje judan soji chonam la janjo badu dani kapsoji. Dagingi soni besanam ge dora benche sanje do boisho. Sangye jodan zogi jonam lo jojo badu dani kapzo chi dagi chi so ni be sanam gi do la ben chi sangye do bai ro ya zem chen tam che de wa tong ne we ju tan den pa ju shi du nyel tong du nyel din ju tan de wa Je vous souhaite le bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver après cette année et demie où je ne suis pas venu enseigner, puisque j'étais en retraite pendant un an. Donc j'avais souhaité reprendre cet enseignement ici à la pagode en se fondant sur l'étude. En se basant, en entreprenant, on pourrait dire, une étude du message essentiel donné par le Bouddha, une étude donc des ce qu'on appelle les quatre vérités des nobles, ou plus communément les quatre nobles vérités. Cet enseignement est vraiment le fondement, la base même du message du Bouddha. C'est important de le comprendre parce qu'on ne peut pas, si vous voulez, entamer une réelle pratique de méditation sans en connaître les bases mêmes de ce qu'est le bouddhisme et de la pensée du Bouddha. Donc pendant toute l'année, nous allons étudier ce texte. Donc c'est quelque chose qui doit être suivi, bien sûr, parce que venir une fois comme ça de temps en temps, si vous n'avez pas la totalité de l'enseignement, ça ne sert pas à grand chose. Donc ça va demander de votre part, bien sûr, une certaine assiduité dans l'écoute et aussi dans la réflexion. Nous allons bien sûr étudier ça de manière, on pourrait dire, lentement, de façon à bien intégrer le sens de cet enseignement. Et puis ça c'est donc pour les samedis, le samedi après-midi, et le dimanche après-midi, eh bien nous continuerons comme avant à pratiquer la méditation, mettre en pratique réellement donc l'enseignement du Bouddha à travers la méditation. Ce que je voulais aussi dire, c'est que actuellement, l'accent va être un peu mis en effet sur l'aspect étude, parce que c'est important donc déjà de savoir où on va. Quand on veut aller quelque part, il faut déjà étudier la carte, si vous voulez. Donc ben là, c'est pareil dans la tradition bouddhiste. Donc il faut vraiment avoir une idée du cheminement, de ce que, à quoi sert finalement une pratique spirituelle. Et il est important donc à travers cette étude de pouvoir revenir sur les enseignements. Parce que bien souvent quand le lama enseigne, on écoute, voilà, on est là, on est bien, tout se passe bien. Et puis on oublie. On oublie les choses une semaine, 15 jours après. Si le lama vous interroge sur quelque chose, vous ne vous souvenez plus finalement de ce qui a été dit. Mais il est même arrivé à certaines personnes de ne plus se souvenir du thème même de l'enseignement. Et c'est pour ça que l'enseignement donc va être enregistré. On l'avait commencé déjà avant l'année passée. Vous aurez donc la possibilité de vous procurer les enregistrements, mais il va être demandé donc maintenant, à partir de maintenant, à vous tous ou certains qui souhaiteraient s'y engager, de pouvoir faire la transcription écrite de ces enseignements oraux. Donc ça, c'est à voir entre vous. Donc si quelqu'un d'entre vous peut s'y atteler, ou ça peut même être plusieurs personnes, et se partager le travail. Cet enseignement qui sera donc transcrit sera donc écrit. Donc vous pourrez vous procurer ensuite, pour ceux qui ont assisté bien sûr à l'enseignement, ces écrits, et de façon à pouvoir revenir sur ce qui a été dit, de pouvoir l'intégrer, de pouvoir étudier chaque paragraphe les uns après les autres en profondeur, de façon à intégrer le sens. Sinon, ça n'a aucune valeur. Si c'est simplement pour venir comme ça une fois écouter et puis pas retravailler sur ce qui a été entendu, bien sûr c'est oublié et puis voilà, ça n'est d'aucune utilité. Donc à partir de cette année, nous allons faire comme ça maintenant. Donc après, c'est à voir entre vous, les personnes qui souhaiteraient s'engager à retranscrire. Maintenant, tout le monde a un ordinateur, tout le monde s'est tapé sur le clavier. Il suffit simplement d'avoir l'enregistrement et de pouvoir le transcrire. Et après, en faire profiter tout le monde. Parce que bien entendu, il ne s'agit pas de garder ça pour soi, mais de partager ce travail avec les autres. Donc voilà, c'est important de faire comme ça. Alors, il y a une question déjà pour commencer que j'aimerais vous poser. C'est à quoi sert une vie spirituelle? Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est finalement l'utilité d'une vie spirituelle? Est-ce que quelqu'un parmi vous saurait répondre à cette question? Finalement, le sens, c'est bien ça, c'est que en nous-mêmes, il y a quelque chose qui résonne. Il y a cette recherche du bonheur, bien entendu, qui est là pour nous tous et nous toutes. Personne n'aime souffrir, c'est une évidence. Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui souhaitait souffrir, ou alors il fallait qu'il soit dérangé dans sa tête. Mais nous cherchons tous le bonheur. Seulement, nous ne savons pas nous y prendre. Nous ne savons pas comment. Et en règle générale, nous confondons souvent, et je pourrais même dire presque toujours, plaisir et bonheur. Mais du point de vue spirituel, le plaisir, ça reste du domaine du monde, des choses mondaines, c'est-à-dire des choses éphémères. Et tandis que le bonheur, du point de vue spirituel, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, plus vaste, et quelque chose qui ne change pas, qui est définitif, du point de vue spirituel. Mais ce bonheur, bien entendu, il se gagne. C'est pas quelque chose qu'on peut acquérir, comme quand on va au supermarché, c'est facile, on achète ce qu'on veut, on l'a tout de suite, et voilà. Ce véritable bonheur, qui est finalement l'état d'éveil, hein, l'état de libération de la souffrance et l'état de Bouddha, est quelque chose qui se gagne. Et c'est par notre effort, par l'énergie qu'on va y mettre, par notre motivation aussi, que ce sera possible. La motivation, peut-être d'emblée, elle peut être celle de se dire « Bon, bah, moi je rencontre beaucoup de souffrances, le monde est insatisfaisant, il y a beaucoup d'inégalités, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde, donc pour moi-même, j'espère me dégager de tout ça et trouver autre chose et trouver le bonheur pour moi. » Ça peut être ça au départ. Mais il est évident que c'est déjà peut-être une bonne chose, mais c'est pas suffisant. Car ce chemin que l'on va peut-être souhaiter parcourir ensuite, ce sera un chemin qui sera dédié finalement au bonheur de tous les êtres. Parce que nous ne pouvons pas nous-mêmes réaliser un bonheur définitif, ultime pour nous-mêmes si nous n'incluons pas tous les êtres dans notre démarche. C'est comme ça que ça fonctionne. Que ce soit dans toutes les religions d'ailleurs, ou tous les courants authentiques, spirituels, on ne peut pas séparer notre propre bonheur du bonheur des autres. Si on ne souhaite pas que les autres soient heureux, si nous ne mettons pas tout en application pour créer réellement le bonheur des autres, à travers notre démarche, nous serons incapables de réaliser notre propre bonheur. Donc l'idée de départ, c'est ça. Même si peut-être on a nous-mêmes envie de résoudre nos propres problèmes, eh bien tous les êtres doivent être inclus dans cette recherche et ce cheminement. Donc, ça demande donc un effort personnel, une démarche de remise en question en profondeur. Si vous voulez, c'est une connaissance de soi en profondeur, à la fois dans nos aspects les plus sombres comme les plus lumineux, nos aspects de confusion ou de sagesse. C'est déjà un travail sur nous-mêmes pour pouvoir acquérir véritablement les qualités qui vont nous permettre d'évoluer et aussi d'aider les autres. Donc tout ça, c'est complètement indissociable. Donc c'est d'abord un travail d'introspection intérieure, une remise en question en profondeur. Et là, il ne s'agit pas simplement d'une psychothérapie. Ça n'a rien à voir avec ça. Et là, on touche l'esprit lui-même, le fondement de toute chose. Et c'est là-dessus que nous travaillons, c'est-à-dire sur notre nature fondamentale, finalement. Donc c'est quelque chose qui doit être pris au sérieux et avec assiduité, et c'est un travail qui est long, qui demande beaucoup de courage en même temps. Et dans ce travail, on doit en même temps inclure les autres êtres avec nous, en même temps dans cette démarche. Et l'enseignement donc dont il est question, qui a été d'ailleurs le premier enseignement donné par le Bouddha à Sarnath après son éveil, et concerne ces quatre nobles vérités et la base de compréhension de ce qu'est la souffrance et de ce que sont ses causes. Donc on va commencer là-dessus et nous allons aller évidemment pas à pas dans cette étude, parce que l'intérêt, c'est pas simplement d'écouter des mots, mais c'est d'en comprendre le sens. Donc la différence est là. La transmission des enseignements du Bouddha peut être divisé en trois courants. On parle d'abord du bouddhisme originel, ensuite on parle du bouddhisme qui est appelé des nombreuses écoles, et le bouddhisme Mahayana, c'est-à-dire du grand véhicule, du véhicule altruiste, qui est fondé sur la compassion. Lui-même, le bouddhisme originel, comprend tous les enseignements que le Bouddha a dispensés durant sa période de vie dans ce monde. Il a enseigné beaucoup de choses à d'innombrables êtres sous différentes formes. On parle donc de l'enseignement originel. Ce qu'il faut savoir, c'est que 140 ans après la disparition du Bouddha, la communauté des moines, qu'on appelle le Sangha, donc, s'est divisée elle-même en deux écoles. Ben oui, ça c'est toujours comme ça avec les êtres humains. Il y en a certains qui sont d'accord avec un style, et puis d'autres qui veulent mieux, qui veulent autre chose, qui veulent améliorer ce style par rapport à l'enseignement originel. Et on parle donc d'abord de l'école Mahasanghika, qui veut dire littéralement l'école de la majorité. C'est un petit peu comme la politique, hein. Et cette majorité, elle se référait bien entendu à ceux qui voulaient des changements. Donc certains ne se contentaient pas des enseignements initiaux, des mots initiaux, ils voyaient une perspective beaucoup plus large par rapport à cela. Donc ça a été cette première école, des deux écoles, Mahasanghika, qui s'est créée. Ensuite, la deuxième école, on l'appelle la Staviravada, hein, qui veut dire littéralement l'école des anciens. L'école des anciens, elle fait référence à ceux et celles d'ailleurs qui s'opposaient au changement souhaité par les Mahasanghikin, par l'autre école. Donc il y avait un petit peu les conservateurs d'un côté et les travaillistes de l'autre, comme diraient les Anglais, hein, ou chez nous on dirait plutôt un peu la gauche et la droite. Voilà, hein. Il y avait les conservateurs et ceux qui voulaient une ouverture plus grande, qui voulaient du changement sur quelque chose peut-être de plus, de moins dogmatique, de plus humain, etc. Donc voilà, donc on retrouve finalement, même à l'époque du Bouddha, le comportement de la plupart des sociétés actuelles, hein, chez nous. Et 100 ans plus tard, donc ça fait 240 ans après le Bouddha, maintenant, l'école des Saviravada s'est à nouveau divisée elle-même en deux branches. Alors vous voyez, il y a les partis et les sous-partis, comme en politique peut-être, hein, les courants différents. On parle d'abord de la première branche qui est la Sarvastivada, donc en sanskrit, qui veut dire l'école qui proclame que tout existe, que tout a une existence réelle. Et l'autre école, c'est la Vipajayavada, qui est l'école qui différencie. Elle n'est pas si catégorique, mais elle dit qu'il y a certaines choses, en effet, qui semblent exister et d'autres non. Les Vipajayavadins étaient soutenus par l'empereur Ashoka. L'empereur Ashoka est un être qui a été exceptionnel, qui a vécu en Inde et qui régnait sur de nombreuses contrées à l'époque. Et ces tenants Vipajayavadins ont été très florissants. Donc cette école a été très florissante, principalement dans la vallée du Gange. Tandis que l'autre école, Sarvastivadin, s'est développée, s'est déplacée plus vers le nord, c'est-à-dire vers le Cachemire en Inde. Et durant 400 ans, c'est-à-dire du vivant du Bouddha même, et après sa disparition, donc, ces enseignements n'ont été transmis qu'oralement. C'est-à-dire qu'on n'écrivait rien. D'ailleurs, même à l'époque du Bouddha, lui-même n'a rien écrit, il donnait ses enseignements oraux, et ce sont les disciples qui retenaient mentalement cela et qui réfléchissaient donc sur ce que le Bouddha avait dit. Mais plus tard, donc, les moines de l'école Tamrachatiya, ceux qui portent des robes de couleur safran, c'est ce que ça veut dire, donc on les connaît encore maintenant, puisqu'ils existent bien sûr encore de nos jours. Et là, ça s'est passé à Sri Lanka, donc. Hein. C'est une branche de l'école même Vipajayavada. Et ces gens-là ont eu l'idée d'écrire les discours du Bouddha sur des feuilles de palmier. Et ça s'est passé, je pense, à peu près au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, hein, les premiers écrits. Et il se passa encore un siècle, vous voyez, dans le temps, déjà, on a toute une évolution, une maturation de la compréhension, de l'affinement de l'enseignement du Bouddha avec le temps. Dans ce qui montre bien que pour nous c'est pareil. Si on veut vraiment évoluer intérieurement, avoir une pratique spirituelle fructueuse, il faut compter avec le temps, la persévérance, la patience, le courage. Vous voyez, il faut inclure toutes ces dimensions pour que ça puisse progresser. Et on le voit donc dans l'évolution des différentes écoles. Donc, ce désir d'écrire les enseignements du Bouddha par cette école, Tamarachatya, donc ça a pu se réaliser véritablement un siècle après. Entre l'idée déjà de le faire et le moment où on pouvait le faire, parce que les choses sans doute n'étaient pas encore arrivées à maturation, les choses n'étaient pas encore prêtes, c'était pas bien calé pour que ça puisse se faire, il a fallu donc attendre encore 100 ans pour cela. Et il est dit qu'entre-temps, seul un moine avait mémorisé la totalité du canon bouddhiste. C'était déjà quelqu'un d'exceptionnel, il avait une mémoire phénoménale pour pouvoir en tenir. On dit tout ce qu'avait enseigné le Bouddha, mais moi je doute quand même fort qu'il ait pu tout retenir. Certainement des choses ont été perdues. C'était inévitable. Et de ce fait, tout cela, ça l'avait rendu quelque peu arrogant, ce moine. Évidemment, il avait cette sensation de détenir la connaissance à lui tout seul par rapport aux autres. Les autres moines devaient donc l'implorer, se prosterner presque à ses pieds pour qu'ils puissent réciter les discours afin de pouvoir les transcrire eux-mêmes. Alors, il y eut bien entendu immanquablement des erreurs de compréhension et de transcription qui ont été commises à cette époque, hein, c'est évident. Et c'est pour cela donc, il est dit qu'il est important de se référer à différents sutras donc, et différentes traductions pour rectifier ces erreurs. La pratique elle-même éclaire notre compréhension, ainsi que les enseignements des maîtres qui en ont réalisé le sens, bien entendu. À l'époque de cette transcription des enseignements du Bouddha, à Ceylan, au Sri Lanka, la langue qui était commune, que tout le monde parlait, c'était le Pali. Il existait alors une vingtaine d'écoles qui s'étaient développées à cette époque-là, qui avaient chacune leur propre lecture et leur propre traduction de l'enseignement du Bouddha. Ces écoles n'ont cependant jamais, à cette époque du moins, créé de scission entre les enseignements du Bouddha qui étaient étudiés, si vous voulez. Deux de ces traductions nous sont parvenues jusqu'à nos jours. Donc maintenant, on parle des canons, Tamarachatya et Sarvatisvada, qui ont été élaborés à peu près à la même époque. Le premier était rédigé en pali, la langue pali, et le second en sanskrit et en prakrit. Prakrit, c'était encore un autre dialecte de l'époque. Les sutras eux-mêmes transcrits en pali à Sri Lanka sont connus sous le nom de bouddhisme du sud, ou bouddhisme Theravada. Theravada qui signifie l'enseignement des anciens. Les textes Sarvastivada, connus sous le nom eux-mêmes du bouddhisme du Nord, et eux n'existent que de manière fragmentaire. Ils ont été heureusement traduits en différentes langues, entre autres en chinois, en tibétain, et c'est ceux auxquels nous pouvons avoir accès actuellement. Il existe aussi bien sûr les textes du Theravada qui sont transcrits. Mais moi, les enseignements donc, que je vais vous donner pendant toute cette année sont fondés, bien entendu, sur les traductions à la fois tibétaines et chinoises. À l'époque du Bouddha, le Bouddha lui-même ne parlait ni le pali, ni le prakrit, ni le sanskrit. Il parlait un dialecte local qu'on appelait le Magadhi ou l'Arda Magadhi, qui correspondait à la région de Magadha, qui était un ensemble de petits royaumes. Hein, donc, on parlait cette langue. Alors évidemment, il n'existe pas de transcription des paroles du Bouddha dans sa propre langue, ce qui est fort bien dommage. Hein. Ça nous aurait peut-être évité certaines erreurs de traduction et de compréhension si on avait eu ça. Mais malheureusement, c'est une langue qui s'est perdue. La comparaison de ces deux traductions de sutras conservées jusqu'à nos jours nous permet de voir quels enseignements ont précédé la division du bouddhisme en plusieurs écoles. Lorsque les sutras des deux transmissions, par exemple, sont identiques, eh ben, nous pouvons en déduire que leur contenu devait déjà exister avant la division. Lorsque les traductions sont différentes, eh bien, nous pouvons supposer que l'une de ces transmissions n'est pas correcte. Le bouddhisme du Nord a mieux préservé certains discours, tandis que le bouddhisme du Sud en a mieux préservé d'autres. C'est aussi l'avantage d'avoir aussi deux transmissions. Le troisième courant des enseignements du Bouddha, le Mahayana, est apparu véritablement lui-même qu'au premier ou deuxième siècle de notre ère. Bien que certains historiens prétendent que les premiers écrits du Mahayana sont apparus à la fin du premier siècle avant Jésus-Christ. Mais dans la pratique, ça ne s'est concrétisé que vers le second siècle après Jésus-Christ. Au cours des siècles, après la disparition du Bouddha, la pratique du Dharma, donc Dharma, on entend par Dharma, c'est l'enseignement du Bouddha, mais ce n'est pas l'enseignement qui appartient au Bouddha. Ça veut dire la vérité telle qu'elle est en elle-même, telle qu'elle est perçue par un être éveillé. C'est cela, ce n'est pas la vérité d'une personne, mais c'est la vérité universelle telle qu'elle est perçue par tous les Bouddhas. Donc la pratique du Dharma était devenue, au cours des siècles après la disparition du Bouddha, surtout était devenue le domaine exclusif des moines, des religieux, des moines et des moniales. Le rôle des laïcs n'était que de subvenir aux besoins des communautés monastiques. Mais en fait, ces religieux ne pratiquaient que pour eux-mêmes. Ils pratiquaient pour eux-mêmes, ce qui allait tout de même à l'encontre de l'engagement des tenants du Mahayana, qui, elles, pratiquaient la compassion. Ces moines pratiquaient réellement l'altruisme et la compassion. Ils ne pratiquaient pas que pour eux. Mais en fait, ces trois courants sont complémentaires. Et comme il est impossible pour le bouddhisme originel de se souvenir de tout ce que le Bouddha avait enseigné, il est nécessaire que le bouddhisme des nombreuses écoles et le bouddhisme Mahayana actualisent et corrige aussi quelquefois les enseignements oubliés ou négligés. Afin d'éviter surtout que le bouddhisme devienne un dogme, il est important de le conserver vivant. Il est important de le rendre compréhensible à toutes les catégories d'êtres, mais aussi de l'adapter aux différentes époques, sans bien entendu dénaturer le message originel du Bouddha. Et c'est pour cela qu'il existe de nombreux commentaires qui ont été élaborés au cours des siècles par les maîtres réalisés qui ont jalonné l'histoire du bouddhisme. Et ces commentaires ont enrichi et éclairé la compréhension du message originel du Bouddha. Cependant, il ne faut pas se méprendre. L'enseignement du Dharma ne nous permet que d'appréhender la sagesse avec des mots et des concepts. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Après, il est évident qu'il nous faut en réaliser le sens à travers la mise en pratique. D'ailleurs, il est dit fréquemment que le bouddhisme n'a de valeur que s'il est mis en pratique. S'il reste simplement qu'au domaine des mots, il n'est d'aucune utilité. L'enseignement, ça représente le chemin qui mène vers la libération, vers l'état de Bouddha, vers l'éveil. C'est un peu à l'image, comme j'exprimais un peu tout à l'heure, d'une carte routière qui nous permet de savoir comment aller d'un point à un autre. Mais l'essentiel, bien sûr, c'est d'en réaliser le but, l'éveil. Quand on étudie une carte routière, par exemple, si on veut aller jusqu'à Paris, c'est pas pour ça que nous nous rendrons à Paris. À un moment donné, il faut ou prendre le train, ou là, en l'occurrence, c'est une carte routière, il faudra monter dans notre voiture et puis s'en aller. Donc, il y a une différence entre l'étude et la mise en application de ces études. C'est pour ça qu'il faut aussi se méfier du piège des mots, dépasser le sens, aller au-delà des mots, et en comprendre le sens. Et c'est pour cela que le Bouddha a dit à maintes reprises, mon enseignement est comme le doigt qui montre la lune. Ne faites pas l'erreur de confondre le doigt avec la lune.
Dans la tradition du Mahayana, il est dit, si vous expliquez le sens de chaque mot et de chaque phrase des sutras, donc des paroles du Bouddha, vous faites injure au Bouddha des trois temps. Mais si vous passez outre un seul mot des sutras, vous risquez de parler comme Mara. Mara, c'est un peu la représentation symbolique du démon, comme le démon. Donc vous voyez cette ambiguïté. Si on le veut, disséquer les mots, un petit peu couper les cheveux en quatre, fonctionner qu'avec l'intellect, ça ne marchera pas. Mais si d'un autre côté, on néglige le sens des mots, ce n'est pas l'éveil que l'on va développer, mais le démon qui est en nous. Donc c'est ce que nous disent ces phrases-là. Durant les 45 ans de son activité terrestre, le Bouddha n'a cessé de répéter « Je n'ai enseigné qu'une chose, la souffrance et la transformation de la souffrance. » Et c'est seulement 49 jours après son éveil, sous l'arbre de la Bodhi, près de Gaya en Inde du Nord, que le Bouddha, il est dit, se rendit à Palan, au parc des gazelles à Sarnath, afin de partager sa compréhension avec les cinq ascètes qui avaient été ses maîtres et compagnons de pratique pendant 6 années. C'est-à-dire que ces êtres-là, quand il a quitté son palais, il a quitté ses privilèges princiers pour renoncer au monde, et plus tard, dans sa recherche, il a rencontré ces 5 yogis qui pratiquaient. Il leur a demandé de rester avec eux pour pouvoir apprendre la méditation, apprendre et comprendre le sens de la, comment dirais-je, de tout ce que pouvaient vivre les humains, c'est-à-dire la naissance, le vieillissement, la mort, la maladie, etc., approfondir tout cela. Donc il est resté avec ses ascètes pendant 6 années où il a pratiqué les mortifications à outrance. Et il s'est rendu compte finalement que tout ça, ça suffisait pas, c'était extrême. Et c'est à partir de ce moment qu'il a décidé lui-même de chercher la vérité par lui-même. Avec tout évidemment ce qu'il avait reçu, tout ce qu'il avait pu étudier jusque-là, ça lui a permis de comprendre qu'il était nécessaire à un moment donné de se retirer, de se mettre en retrait et d'approfondir ça par lui-même. Et c'est là donc qu'il a quitté ses compagnons et maîtres, finalement, puisque c'était aussi ses maîtres, et qu'il s'est retiré dans un endroit pour méditer sous un arbre. Et donc il a réalisé l'éveil très rapidement, et c'est après seulement qu'il s'est posé la question, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Pouvoir expliquer ça aux gens à l'extérieur, ils vont rien comprendre du tout, tellement c'est profond. C'est une expérience qui est complètement intime, qui est personnelle. Et comment je vais faire? Et il renonçait finalement dans un premier temps à enseigner, il dit les gens ne comprendront pas. Et c'est là, alors qu'il y a eu des dieux qui lui ont apparu, qui l'ont supplié, si tu dois enseigner, car grâce à cela tu vas pouvoir libérer de nombreux êtres de la souffrance. Et c'est donc à partir de ce moment-là qu'il a décidé de s'en aller, de quitter ce lieu, quitter sa retraite finalement, avec l'intention de pouvoir partager son expérience avec d'autres. Il est allé donc à Sarnath, au parc des gazelles, et c'est là qu'il a rencontré en fait ses anciens maîtres et compagnons finalement à qui il a commencé à enseigner. Alors, il y a une petite histoire quant au lieu qu'on appelle Sarnath, le parc des gazelles. Sarnath est traduit en fait en tibétain par Dramsong Lumpa, ce qui signifie littéralement là où les êtres aux grandes réalisations sont tombés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien cela, ça se réfère à un événement qui s'est passé là-bas, qui a eu lieu peu de temps avant la naissance du Bouddha Shakyamuni. Dans ce lieu, il y avait un groupe de pratiquants Bouddha, c'est-à-dire des gens qui pratiquaient la méditation, mais dans le seul but de se libérer eux-mêmes, sans vraiment penser aux autres. Ce qu'ils voulaient, c'est leur propre bienfait personnel. Et ils résidaient donc, ce groupe-là, en cet endroit, donc au parc des gazelles. Et lorsque le moment fut venu pour le futur Bouddha Shakyamuni de descendre du paradis où il vivait, le ciel de Tushita, pour aller dans la matrice de sa mère, la reine Maya Devi, il est dit que toutes sortes de phénomènes merveilleux se manifestèrent sur la terre. Il y a eu des tremblements de terre, des pluies de fleurs, des arcs-en-ciel, etc. Et c'était autant de signes, bien sûr, qui annonçaient la venue d'un être exceptionnel sur notre terre. À ces signes, ces fameux pratiquants bouddhas comprirent donc qu'un sauveur, qu'un bouddha allait venir dans notre monde. Et comme les pratiquants bouddhas ne peuvent demeurer en un monde où il y a un bouddha, les deux ne peuvent pas occuper la même place, parce que l'enseignement des uns ne correspond pas à l'enseignement du bouddha. Donc il faut qu'il y en a qui disparaissent, donc l'un des deux finalement, mais c'est toujours bien sûr les pratiquants bouddhas qui doivent s'en aller. Donc, comme ils ne pouvaient pas rester en son monde du fait de l'avenue d'un bouddha, eh bien, il est dit qu'ils s'élevèrent dans le ciel et ils prirent feu. Et les cendres de leur corps retombèrent peu à peu sur terre. Et les humains, en voyant cela, nommèrent cet endroit le lieu où les êtres aux grandes réalisations sont tombés. Voilà l'origine du nom du parc des gazelles de Sarnath. C'est l'histoire que l'on donne.
Un petit peu, hein. C'est pour ça qu'il va falloir revenir sur ces enseignements, les étudier.
Donc le Bouddha Shakyamuni, Siddhartha Gautama, qui devint donc le Bouddha Shakyamuni, c'est-à-dire l'éveillé, le sage des Sakyas, mit en mouvement en ce lieu de Sarnath, face à ses cinq disciples et d'autres d'ailleurs qui vinrent se regrouper autour de lui, qui mit en mouvement le premier tour de la roue du Dharma, qu'on appelle en sanskrit Dharma, hein, Chakra, Pavatana Sutra, qui correspond donc au Samyutta Nikaya, c'est-à-dire des traités qui furent élaborés bien sûr après. Cependant, il faut savoir qu'il enseigna aussi les quatre nobles vérités lors du second tour de la roue du Dharma qu'il donna à peu près à la moitié de sa vie au pic des Vautours, à Rajgir, en Inde. Il enseigna ainsi que la Prajnaparamita à des êtres innombrables qui étaient en mesure, bien entendu, de recevoir l'enseignement du Mahayana. Cet enseignement qui fut donné la première fois par le Bouddha comprend trois points. Le premier point est l'enseignement sur la voie du milieu. La voie du milieu, c'est-à-dire au-delà des extrêmes de mortification ou de plaisir mondain. Le Bouddha, dans son expérience, a compris, si vous voulez, que le véritable chemin n'est pas dans les extrêmes, mais il se situe à la fois dans une espèce d'équilibre entre les deux. Il est important de ne pas rejeter le monde, mais il est important aussi de ne pas adhérer totalement aux choses du monde. Donc c'est en cela que se caractérise la voie du milieu. Le second point concerne bien entendu l'enseignement sur les quatre nobles vérités. Et le troisième point, c'est l'engagement dans le monde en relation avec l'octuple sentier qui caractérise donc la quatrième des nobles vérités, c'est-à-dire le chemin qui mène à l'au-delà de la souffrance. Donc c'est-à-dire qu'il y a un engagement dans le monde aussi vis-à-vis des autres. Et c'est en cela que, bien entendu, on développe l'aspect altruiste, l'aspect de compassion vis-à-vis des êtres. Il est dit dans le sutra, et il commence d'une manière très très forte, donc je vais prendre comme fil rouge, si vous voulez, durant tout cet enseignement, la parole même du Bouddha, que je vais expliquer en détail, mais sur la base du Mahayana, et non pas du Hinayana. Et ces paroles commencent d'une manière quand même assez forte. Il est dit, le Tathagata, Tathagata ça veut dire le parfait, celui qui a accompli la perfection. Ô frère, le très saint, le pleinement illuminé a établi à Issipatana, au parc des gazelles de Varanasi, Varanasis, c'est Bénarès, bien sûr, puisque le parc des Gazelles se situe pas loin de Bénarès actuel. Varanasis, c'est l'ancien nom de Bénarès. A établi donc en ce lieu le royaume suprême de la vérité, que personne, ni ascète, ni prêtre, ni être céleste, ni esprit mauvais, ni Dieu, ni qui que ce soit existant dans tout le monde ne peut rejeter. C'est très fort. Ça veut dire que ce qu'il enseigne, c'est complètement incontestable. Il a proclamé, indiqué, fait connaître, établi, dévoilé, expliqué et rendu évidente les quatre nobles vérités. Vous voyez, déjà ça démarre fort. Ça veut dire que tout ce qu'il va expliquer, tout ce qu'il va démontrer est incontestable. Des gens ont essayé, de différentes traditions, surtout les brahmanes à l'époque, de contester ce qu'a dit le Bouddha. Et lors de débats et de joutes oratoires, le Bouddha ou les grands maîtres qui l'ont suivi plus tard ont toujours démonté les arguments des autres tenants, d'autres traditions. À travers, bien sûr, des exemples de logique, mais à travers aussi leur propre réalisation. Et il s'est avéré que jusqu'à nos jours, actuellement, personne, absolument personne, n'a pu remettre en question de manière définitive ces enseignements. Tout simplement parce que ce que dit le Bouddha, c'est la vision d'un être éveillé. C'est la vision de tous les êtres éveillés. Lorsque c'est la connaissance de tous ces êtres, lorsqu'ils ont réalisé l'état ultime de l'esprit, eh bien ils ont tous la même connaissance. Donc c'est incontestable. Si c'était quelqu'un qui avait une connaissance particulière et quelqu'un d'autre qui en avait une autre à travers cette trajectoire, on pourrait se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ils ont tous expérimenté la même chose, le même fruit, récolté les mêmes fruits, les mêmes résultats. C'est pour ça que c'est incontestable. C'est des choses telles qu'elles sont perçues par les êtres éveillés. Alors quelles sont ces quatre nobles vérités ? Ben, on parle bien entendu de la vérité de la souffrance. Bien souvent, on ne sait pas ce que c'est que la souffrance. On en a une petite idée, à notre mesure, en fonction de ce qu'on peut comprendre nous-mêmes, mais on va voir que c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine. Il a parlé ensuite de la noble vérité de l'origine de la souffrance. Il a démontré forcément que toute chose qui apparaît en ce monde a quelque chose qui lui a précédé et qui en est la cause. Donc cette souffrance, si vous voulez, n'est pas apparue de manière comme ça, sans cause, sans objet, qu'il y a toujours derrière des raisons. À tout ce qui nous arrive d'ailleurs dans notre vie, il y a toujours une raison. Il y a toujours des causes qui ont été produites avant. Tout fonctionne comme ça. Il n'y a jamais rien pour rien, jamais rien sans rien. Donc il a dit, cette souffrance est là, mais il y a l'origine de cette souffrance. Alors après on pourrait se dire, mais s'il y a une origine de cette souffrance, ça veut dire qu'il y a une certaine fatalité et qu'on ne peut rien faire. Et c'est à partir de là qu'il a enseigné la troisième noble vérité, qui est celle de la cessation de la souffrance. Il dit oui, cette souffrance est là, mais elle peut cesser, même si elle a une origine, elle peut cesser. Pourquoi ? Parce que l'éveil existe. Si ça ne pouvait pas cesser, eh bien l'éveil n'existerait pas. Puisque l'au-delà de la souffrance existe, ça veut dire que cette souffrance, elle peut cesser. Mais pour cela, bien sûr, ça nous introduit tout de suite à la quatrième noble vérité, qui est la voie elle-même qui mène à l'au-delà de la souffrance. Parce que pour parvenir à cet au-delà, eh bien, il y a un chemin à suivre, il y a une méthode, il y a une technique qu'on doit appliquer au quotidien. Cet exposé qui est donné par le Bouddha, en fait, il est conforme aux étapes de la pratique. Et ça s'apparente beaucoup, si vous voulez, au processus de guérison d'un malade. On peut prendre cet exemple-là, si vous voulez. Si le malade veut échapper aux souffrances que lui cause sa maladie, eh bien, il doit d'abord déterminer quelle est sa maladie. Bah oui, s'il ne sait pas quelle maladie dont il souffre, il peut pas se soigner. Et pour cela, bah, il va s'adresser, bien entendu, à un médecin qui va déterminer quelle est sa maladie. Et lorsqu'il a réalisé son état, le malade devra, bien entendu, en second lieu, en déterminer les causes, grâce au médecin. Ça peut être un virus, une bactérie, etc. Et troisièmement, le malade devra comprendre aussi que cette maladie peut être guérie. Hein ? Et c'est par la prise de médicaments qu'il va pouvoir guérir. Et ça constitue donc la quatrième étape. Donc ça s'apparente, si vous voulez, au même schéma que ces quatre nobles vérités. D'abord la maladie, ben, il faut détecter quelle maladie on a et comprendre ce que c'est que cette souffrance que l'on supporte. Ensuite, grâce au médecin, il va nous expliquer les causes de ça, on va déterminer par des analyses, etc., par une compréhension intérieure quelles sont les causes. Et puis après, il va falloir appliquer un remède, tout simplement parce que la guérison existe. Donc comme la guérison est possible, il va falloir utiliser ce remède pour pouvoir guérir. Hein. Donc c'est, si vous voulez, cette démarche, cet exemple qui est cité, est en tout point semblable à celle que suit le Bouddha dans ses enseignements. Et on peut dire que le Bouddha lui-même, il est le médecin, et que le Dharma, les techniques qu'il donne à mettre en application, c'est comme le médicament. Le médicament qui va nous permettre de guérir. Alors, on peut se poser la question, pourquoi parler de vérité ? Ça rejoint un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Celui qui allait devenir le Bouddha n'avait pas, dès l'origine, lui-même éliminé toutes les fautes, toutes ses fautes, et acquis toutes les qualités. Il n'avait pas donc, encore réalisé cet état de perfection. Et il a d'abord enduré, comme nous, on peut dire, les souffrances du samsara, du cycle des existences. Puis, ayant mis en pratique les quatre nobles vérités, il a éliminé, bien entendu, en lui, toutes les négativités et développé les qualités nécessaires, les qualités de l'esprit qui sont déjà là en nous, et de devenir un être pleinement éveillé. Il est un peu comme un ancien malade, on pourrait dire, qui serait devenu médecin lui-même. C'est un peu ça. Parce qu'il a enseigné une voie et des méthodes que lui-même avait expérimentées, ses paroles sont pleinement fondées. Ça veut dire qu'elles ne sont pas fausses et elles peuvent être donc, de ce fait, être appelées vérité. C'est pourquoi on donne le nom de quatre nobles vérités aux quatre points dont il est question, que sont la souffrance, l'origine de la souffrance, la cessation de la souffrance et le chemin qui mène à cette cessation. Il constitue en fait un enseignement sur le samsara, le cycle des existences, souffrance et origine de la souffrance, et sur la façon de s'en libérer, c'est-à-dire cessation de la souffrance et chemin qui mène à cette cessation. Et donc, au cours de tous ces enseignements, le samedi après-midi, eh bien, nous essaierons d'explorer tous les points concernant ces quatre nobles vérités. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Ça va, tout vous semble clair, alors. C'est pas de question, vous avez tout compris. Donc finalement, c'est peut-être pas la peine que j'enseigne. Si tout vous paraît clair et limpide. Micro, parce que c'est enregistré, donc c'est important qu'on ait des questions aussi.
J'ai pas très bien compris le rapprochement qu'il faut faire entre les trois points que vous citiez. Avant les quatre nobles vérités, la voie du milieu, l'engagement dans le monde et ces quatre points. Je n'ai pas très bien compris le rapprochement. Je ne sais pas s'il y en a un d'ailleurs, je sais pas.
C'est l'enseignement qu'a... Si, parce que c'est l'enseignement qu'a donné le Bouddha à travers ses quatre tomes de vérité. Il explique que le chemin qui mène à l'au-delà de la souffrance est un chemin qui est au-delà des extrêmes. Hein, donc la voie du milieu, au-delà des extrêmes, c'est-à-dire au-delà de la mortification, de la cèse à outrance où on se mortifie, le Bouddha s'est rendu compte finalement qu'on ne pouvait pas atteindre l'éveil de cette manière-là. Mais comme il était un prince avant, qu'il était appelé à succéder à son père dans son royaume, le royaume des Sakyas, il avait connu donc cette vie de plaisir mondain qu'on connaît tous, à la seule différence c'est que lui était très riche. Et il s'est rendu compte aussi que cette autre voie extrême des plaisirs incessants ne menait pas non plus à la libération de la souffrance. Et c'est à partir de là, à travers son expérience, qu'il a dit, la voie qui peut nous permettre de nous libérer, c'est la voie du milieu, au-delà de ces deux extrêmes. Donc il a enseigné cela à travers, bien entendu, les quatre nobles vérités. On va voir tout au fur et à mesure, donc de l'enseignement, que ça se passe bien comme ça. Ensuite, qu'est-ce que c'était le dernier point? Vous me disiez là, l'engagement, voilà. Et donc, comme ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que la libération n'est possible que si, dans la vie quotidienne, on ouvre notre esprit à la compassion, vers le service des autres. S'il n'y a pas cela, on ne peut pas réaliser finalement les quatre nobles vérités. Si on est quelqu'un d'égoïste qui pense qu'à sa propre libération personnelle, en ignorant complètement la souffrance des autres, eh bien on ne peut pas réaliser ces quatre nobles vérités et finalement l'état de Bouddha. Donc c'est cela qu'il a enseigné à travers, et ça va ressortir bien entendu tout au long de l'enseignement sur les quatre nobles vérités. Je ne sais pas si c'est clair, ça va. Alors le troisième point, je n'ai plus en mémoire, c'est l'enseignement lui-même, donc sur les quatre nobles vérités, qui éclaire donc tous ces points-là. Alors la question que je vais vous poser, est-ce que ça vous intéresse? Bien entendu. Je verrai au cours des journées que j'enseignerai si vraiment ça vous intéresse, et à ce moment-là je continuerai. Si je vois bien entendu que il n'y a pas d'intérêt pour cela au fur et à mesure, eh bien j'arrêterai tout simplement cet enseignement. Mais ce serait dommage. Donc je rappelle que c'est un sujet d'étude. C'est pas simplement un enseignement général que je vais donner, qu'on entend comme ça. C'est quelque chose sur quoi il faut revenir, un enseignement sur lequel il faut revenir. C'est pour ça que donc c'est enregistré, qu'il faudra faire des transcripts, que tout le monde pourra avoir accès à ces transcripts, et que vous pourrez étudier. Et étudier, ça veut dire pas lire ça en une nuit. C'est un petit peu ce que disent les Tibétains, mais vous, les Occidentaux, vous êtes incroyables. Vous prenez un livre, vous êtes capable de le lire en une nuit, en une journée, et puis après, vous n'en parlez plus. Il dit, chez nous, ça se fait pas comme ça. Surtout quand c'est un livre sur la philosophie ou l'enseignement qui nous permet de nous libérer de la souffrance. On reprend les paragraphes de cet enseignement, même si c'est que 3-4 lignes, et on revient dessus sans cesse et sans cesse jusqu'à en comprendre le sens. C'est ce qu'on appelle la réflexion. Ça fait partie donc des trois points que l'on doit mettre en application pour l'étude, sur le chemin de l'éveil. On parle d'abord de l'étude. L'étude, ça veut dire, c'est l'écoute, bien entendu. Hein, l'écoute, c'est-à-dire vous écoutez l'enseignement que le lama ou le vénérable donne. Et ensuite, il y a un travail qui est personnel par rapport à cette écoute, c'est-à-dire la réflexion. Réflexion, ça veut dire quoi? C'est qu'il y ait un reflet dans votre esprit. Que ça s'intègre, que le sens s'intègre dans votre esprit. Et pour ça, il faut revenir sur les passages importants de tout le texte, de façon à en comprendre le sens. Et le troisième point qu'il est important de mettre en application, c'est la mise en pratique. C'est-à-dire ce que l'on aura compris, entendu d'abord et compris, on le met en pratique au quotidien, à travers la pratique de la méditation, que ce soit dans notre activité ou dans nos moments de retrait. Donc il y a ces trois points à mettre en application. Et c'est pour ça que vous avez donc besoin de base pour cela. D'abord l'enseignement oral qui vous est donné, qui est l'écoute. Ensuite, la réflexion que vous allez faire à partir de cette écoute et de la transcription qu'il va y avoir, donc l'étude, il y a un travail donc de votre part, et sur cette base-là, vous pourrez pratiquer. Parce que jusqu'ici, on s'est aperçu que l'enseignement du Bouddha avait été donné aux Occidentaux d'une manière un peu trop élevée. C'est vrai que ça s'est fait surtout à partir des Tibétains, principalement, ça nie pas bien entendu l'activité des autres courants spirituels, mais ça s'est répandu surtout à partir du moment où les Tibétains ont quitté leur pays, ont pu rencontrer des Occidentaux et sont venus donc en Occident pour enseigner le bouddhisme. Et, ils avaient à cœur, bien entendu, de nous faire partager leur sagesse, leur connaissance, et ils nous ont enseigné un peu tout ce qu'ils connaissaient. Hein, principalement à ceux qui allaient devenir des lamas plus tard, et on s'est rendu compte qu'avec le temps, ces méthodes qui étaient enseignées, qui correspondaient à une époque, n'étaient plus valables à notre époque maintenant. Le karma des êtres avait changé, et donc il fallait réadapter cet enseignement à ce que vivaient les Occidentaux, à leurs préoccupations, à leur niveau, de façon à ce que la mise en pratique de ces enseignements puisse porter ses fruits. Hein, jusqu'ici, ça avait été un petit peu anarchique d'une certaine manière. Ils ont enseigné tout, je dirais pas n'importe quoi, mais tout, et ce qui n'était pas forcément adapté à notre réalité. Mais ils ont appris à nous connaître, bien sûr, ces gens-là, et à voir comment on fonctionne. Et maintenant, on a donc décidé de changer notre manière d'enseigner et de donner aux Occidentaux ce qui peut leur être utile. Parce que jusqu'ici, il n'y avait pas de fruits dans la pratique. Donc c'est important de comprendre ça aussi. Donc on se met plus au niveau des Occidentaux, de façon à ce qu'ils puissent intégrer réellement le sens de ça, que ça se fasse et qu'il n'y ait rien, un réel progrès. Donc, voilà, l'idée c'était ça. Et donc c'est pour ça qu'il est important d'étudier. Jusqu'ici, on s'imaginait que juste poser ses fesses sur un coussin de méditation, ça suffisait. On se dit voilà, maintenant je vais aller bien, tous mes problèmes vont être réglés de cette manière. Mais on s'est rendu compte que rien n'est réglé. Absolument rien, parce qu'il manquait, il manque autre chose, il manque une certaine forme d'enseignement et d'étude de cet enseignement pour que les choses puissent avancer. Donc c'est ce qu'on va s'efforcer de faire, si vous voulez, maintenant, sur un autre mode. Et on en revient à des choses, je dirais pas des choses plus simples, il y a des choses basiques qui vont être réenseignées, mais il y a des choses aussi profondes qui vont être dites et qu'on devra nous-mêmes intégrer. Ça va se faire, bien sûr, progressivement. Puis je verrai, en fonction de l'auditoire, si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, bien entendu, je changerai ma façon de faire, parce qu'en fait, cet enseignement-là, il n'a jamais été donné encore, réellement, de cette manière. Donc, en fait, vous êtes des cobayes. Et ce qu'il y a, c'est que bien entendu, à chaque fois que je viendrai, avant de commencer l'enseignement, je vous poserai des questions sur ce qui aurait été dit la fois d'avant. Je ne dis pas qu'on fera une interro écrite, mais il y aura des points que je souhaiterais que vous puissiez rappeler, vous rappeler et expliquer. Voilà. Donc je poserai des questions. Évidemment, ça ne sera pas des choses insurmontables. Mais voir si vraiment vous avez compris ce qui a été dit. Voilà donc l'idée de ce qui va être fait maintenant. Et finalement, dans ce principe de changement de méthode, on pourrait dire, elle n'est pas uniquement réservée qu'aux gens qui viennent à la pagode. C'est dans tous les centres bouddhistes d'Europe que ce changement va être mis en œuvre. Donc de méthode et d'approche. Et on va mettre donc l'accent sur deux choses. Donc en fait, c'est même sur ces trois choses. L'écoute, la réflexion, donc l'étude sur les enseignements, et la mise en pratique de la méditation. Donc pour ce qui nous concerne, le samedi, on étudiera. Et le dimanche, on pratiquera la méditation. Voilà. Ça va? Est-ce que vous êtes prêts à vous engager à cette étude de manière régulière ou non? C'est aussi important pour moi, parce que s'il y a des gens qui viennent aujourd'hui et qui ne reviennent pas la prochaine fois, et que j'ai de nouvelles personnes la prochaine fois qui n'auront pas entendu l'enseignement d'avant, et ceux qui sont venus avant n'entendront pas les enseignements d'après, pour moi ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de continuité et que je perds mon temps. Et le programme est donc donné où il y a mars, avril et mai. Non. Mais ça peut changer l'année prochaine, hein, parce que c'est aussi en fonction de mes disponibilités et des disponibilités de la pagode. En fonction des rituels qu'ils ont, des cérémonies, donc il faut qu'on arrive à caler ça entre nous deux. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément bien régulier dans l'espacement des enseignements. Mais peu importe, ce qui est important, c'est de pouvoir réserver ces jours-là, si vous êtes vraiment intéressé, pour pouvoir approfondir ce qui va être enseigné, vraiment vous y tenir, si vous voulez progresser. Sinon, ça peut pas se faire. Le progrès, il peut s'opérer que s'il y a une continuité dans les choses. C'est comme tout, quand on apprend un métier ou qu'on va à la fac, si on n'assiste pas à tous les cours, à tout ce qui est enseigné, jamais on pourra avoir son diplôme. Ben, c'est la même chose dans le bouddhisme. Si on vient comme ça une fois, juste pour distraire, ou peut-être parce que voilà, on n'a pas le temps autrement, eh bien, il n'y a pas donc cette continuité, il n'y a pas de progression possible. Donc mon idée, moi, c'est de continuer sur cette lancée, mais bien entendu, à condition que les gens puissent faire preuve aussi d'intérêt et de persévérance et de courage pour pouvoir étudier. C'est pas insurmontable, hein, si c'est que 4-5 fois dans l'année, je veux dire, c'est quand même pas quelque chose d'insurmontable. On peut prévoir ça dans son calendrier. Hein, c'est tout à fait faisable. Si je vous disais de venir 2 fois par semaine, c'est sûr que ça serait pas possible. Puis moi, je pourrais pas non plus. Donc, vous voyez ? Oui. Le micro.
C'est juste pour demander qu'est-ce que vous faites en dehors du fait de venir ici.
Oh ben, les gens qui me connaissent depuis des années que je viens ici savent très bien, mais peut-être vous ne savez pas. C'est peut-être la première fois que vous venez. Donc, mon nom c'est Lama Sonam Dorje, j'appartiens à la tradition bouddhiste tibétaine et plus particulièrement à l'école Karma Kagyu de cette tradition qui comprend 4 écoles principales. Moi-même je suis occidental, je suis français, je ne suis pas tibétain, donc et je suis moine et enseignant et je vis au monastère de Kundrling en Auvergne qui est à l'heure actuelle le plus grand monastère d'Europe. Où vivent les moines et les moniales, donc un monastère pour les hommes, pour les femmes. Et donc, entre autres, bon, j'ai eu beaucoup d'activités jusqu'ici, puisque je me suis occupé du dialogue interreligieux pendant 12 d'années. Je me suis occupé aussi du service funéraire. Les choses changent maintenant avec les nouvelles lois, donc ce qu'on pouvait faire avant, malheureusement, on ne peut plus trop le faire. Et donc j'ai différentes activités, bien moins peut-être qu'avant, mais c'est surtout la principale, c'est l'activité d'enseignement. Et c'est donc à l'invitation du vénérable de la pagode ici, que je, à sa demande, que je suis venu donc enseigner. On a commencé en quelle année ? En 2005. En 2005, donc ça fait que 5 ans que je viens ici, que j'enseigne régulièrement, sauf l'année passée, puisque j'étais en retraite. Donc c'est un autre nama qui est venu me remplacer. Voilà.
On dit souvent que le bouddhisme n'est pas une religion, mais une philosophie. Et vous parlez de religion.
Ça, c'est très occidental, ça, ces questions-là. Poser la question à un asiatique, il ne comprend même pas ce que ça veut dire. Déjà, en tibétain, il n'y a pas de mot pour religion et pas de mot pour philosophie. Il y a un mot pour les deux. Alors, évidemment, on pourrait disserter ça... Et c'est très intellectuel, très occidental, cette manière de penser. Pour les Asiatiques, pour les Tibétains entre autres, la religion, elle n'est pas séparée de la philosophie. La philosophie concerne plutôt la vie quotidienne, et la religion, c'est ce qui nous relie. Relier, ça vient de ce mot relier. Relier quoi à quoi ? Alors évidemment, si on prend le point de vue des scientifiques ou des théologiens chrétiens, ils disent que le bouddhisme ne peut pas être une religion parce qu'il ne se relie pas à un dieu créateur. Alors évidemment, si on prend ce point de vue-là, c'est certain que c'est pas ça. Quoi. Le bouddhisme ne se relie pas à un dieu créateur. Mais par contre, le bouddhisme, néanmoins, à des rituels, hein, des cérémonies, à une liturgie, etc., qui permet de nous relier, nous, être vivants dans la relativité, à notre nature fondamentale qui est au-delà de cette relativité. Donc dans ce sens-là, donc, c'est aussi une religion. Alors, tout dépend des concepts qu'on utilise et la définition qu'on donne à religion. Pour un chrétien, par exemple, ou pour les tenants de religion monothéiste, le bouddhisme ne peut pas être une religion, mais selon la philosophie bouddhiste, le bouddhisme est aussi une religion, parce qu'il y a des rituels, il y a une liturgie, il y a cette reliance qui existe entre notre nature relative au quotidien et cette transcendance qui est l'esprit, qu'on n'appelle pas un dieu créateur, mais autrement, donc c'est l'esprit. Donc voilà pour le mot religion. La philosophie. Alors la philosophie, qu'est-ce que ça veut dire ? Le sens même de la philosophie, c'est d'apprendre à penser par soi-même. Hein ? Mais ça veut dire aussi autre chose. Philo, c'est amour, je crois. Hein ? Sophie, c'est sagesse. Donc c'est l'union de l'amour et de la sagesse. Alors si on prend cette référence-là, le bouddhisme est une philosophie. Si on dit le bouddhisme est une technique qui nous apprend à réfléchir par nous-mêmes, bah bien entendu oui, c'est cela. Mais certains scientifiques et certains philosophes vont dire « Mais non, le bouddhisme n'est pas une philosophie parce qu'ils ne pensent qu'à travers l'enseignement du Bouddha. Ils ne pensent pas par eux-mêmes. » Donc vous voyez, on peut encore... Mais l'important, c'est pas ça. Si vraiment on veut savoir ce qu'est le bouddhisme, on pourrait dire c'est une voie spirituelle. La définition. Et plus encore, si on utilise le terme tibétain qui définit bouddhisme, c'est vrai que les ismes dans les langues asiatiques, ça n'existe pas. Enfin, je ne sais pas trop en vietnamien, mais dans le bouddhisme, dans le tibétain, ça n'existe pas, les ismes. Hein? Donc voilà. Et pour définir donc ce qu'est le bouddhisme, ils utilisent un terme qui est Nampeche en tibétain, hein, et qui signifie la science de l'intérieur. Donc si on peut définir le bouddhisme, ça serait ça, la science de l'intérieur. On ne parle pas de la science de l'extérieur, qui correspondrait à toutes les sciences mondaines que l'on connaît, comme la médecine, la philosophie, les mathématiques, les sciences, etc., qui sont des sciences extérieures. Là, on parle de science intérieure. Et pourquoi elle est intérieure ? Parce qu'elle concerne l'esprit. C'est la recherche même de la nature de l'esprit, de la nature du soi de la personne et de la nature du soi des phénomènes. Et pour cela, pour pouvoir comprendre le sens de cette nature, ça passe par un regard intérieur. Nang en tibétain, c'est ce qui est à l'intérieur. Peche, c'est ce qui fait la relation entre l'intérieur et la réalité de l'intérieur. La vérité de l'intérieur. Che, c'est ça. Che, c'est le dharma de l'intérieur. Voilà. L'idée, c'est ça. En fait, il est toujours difficile de vouloir classifier le bouddhisme. Et nous, occidentaux, ça nous rassure de mettre les choses dans un tiroir. Ça, c'est vraiment notre mentalité. Ça, on le met là, dans ce casier-là, comme ça, on sait ce que ça veut dire. Ça, on le met dans ce casier-là. Mais les choses ne sont pas si tranchées que ça. Pour nous, occidentaux, c'est toujours ou tout blanc ou tout noir, mais non. Et c'est pour ça que c'est difficile de classifier le bouddhisme. Parce que c'est... C'est ni ceci ni cela, c'est à la fois ni ceci ni cela, ni pas ceci ni pas cela. Oui. Et c'est que par l'expérience intérieure que l'on peut comprendre le sens de ce que ça veut dire. Alors si vous voulez, on va commencer petit à petit, tout doucement, à travers le fil rouge, les paroles du Bouddha, à expliquer ce que sont ces quatre nobles vérités. Alors, quand on parle de la noble vérité de la souffrance, rappelez-vous, c'est la première des vérités, bah, comprendre ce que c'est que la souffrance. On ne sait pas trop ce que c'est, nous aussi, on imagine que c'est quand on est malade, on a la grippe, on a des rhumatismes, ou on a des choses comme ça, c'est ça pour nous la souffrance. Mais ça reste vraiment très limité, notre compréhension, ou même quand on a des peines mentales, etc. Mais on va voir que c'est beaucoup plus vaste que cela. Alors, évidemment, en rapport avec cet enseignement qu'a donné le Bouddha sur la souffrance, les Occidentaux, quand ils ont eu connaissance de cela, principalement au XIXe siècle, à travers les voyageurs, les chercheurs qui sont allés là-bas en Asie, etc., et eux, ils ont dit tout de suite, oh là là, tradition bouddhisme, cette notion de souffrance, tout ça, ça lui donne une... c'est vraiment pessimiste, etc., c'est vraiment, oh là là, les bouddhistes ne parlent que de ça, de la souffrance, c'est une voie qui est vraiment pas pour nous, ils sont trop pessimistes. Mais, en fait, si on regarde bien, le bouddhisme n'est ni pessimiste, mais d'ailleurs pas plus qu'il est optimiste. Curieusement, parce qu'on pourrait se dire, voilà, un petit peu comme les New Age, vous savez, qui vous disent que tout est beau, tout est merveilleux, regardez, c'est merveilleux, la lumière est là, le soleil brille, tous les êtres, ils sont beaux, tous les êtres, ils sont gentils, tout ça, ils vous entretiennent dans une espèce de croyance, dans un paradis trompeur, etc. Mais le bouddhisme, c'est pas ça. Il n'est pas pessimiste, il n'est pas optimiste, il est simplement réaliste. Il explique les choses telles qu'elles sont. Ben oui, si vous mettez la main sur le feu, ça brûle. Que vous soyez d'accord ou pas, il n'empêche que ça brûle quand même. Si vous vous trempez dans l'eau, eh bien ça mouille. Ça c'est pareil. Vous pouvez dire toutes sortes de choses et dire que ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas d'accord, il n'empêche que l'eau elle mouille. Ça c'est être réaliste. Voilà. Donc ça veut dire que le bouddhisme regarde véritablement les choses objectivement, telles que nous les vivons au quotidien, dans la multitude de nos de diversité de nos vies quotidiennes. Donc ça ne nous entretient pas, bien entendu, dans une espèce d'illusion que nous vivons, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un paradis illusoire, trompeur, etc. Pas plus qu'il essaye de nous effrayer de toutes sortes de péchés, de craintes imaginaires. Bon. Il nous montre tout simplement ce que nous sommes et ce que le monde est et ce que le monde qui nous entoure est. Il explique cela comme cela. Hein. Mais il nous indique aussi le chemin qui nous mène vers la parfaite liberté, vers la paix, vers le bonheur véritable, c'est-à-dire celui qui ne change pas. Il ne s'agit pas du plaisir, là, il s'agit du bonheur. Le plaisir, lui, est changeant. Pourquoi le plaisir est changeant ? Tout simplement parce qu'il est dépendant de quelque chose. On a un plaisir à cause de quelque chose. Hein ? Là, quand on parle du bonheur, c'est le bonheur qui est inconditionnel. C'est-à-dire qu'il naît tout simplement de la réalisation intérieure et non pas d'un objet extérieur qui serait censé nous procurer un bonheur. Ça serait compliqué si c'était ça. Si ce véritable bonheur ultime, il fallait l'obtenir à travers la recherche d'un état ou de moyens particuliers dans l'univers, etc., ça deviendrait extrêmement compliqué. Or là, il n'y a rien à chercher à l'extérieur. Hein? Donc c'est le bonheur véritable, c'est en nous qu'on va le trouver. C'est pas à travers des expédients ou l'acquisition de certains objets ou de certaines considérations qu'on va obtenir ce bonheur. C'est à travers une recherche intérieure. Donc il faut comprendre la différence entre plaisir et bonheur. Et nous, on confond les deux. On confond plaisir et bonheur. Mais le plaisir, remarquez, à chaque fois qu'il nous arrive un plaisir, il se transforme toujours en souffrance, immanquablement. Dès l'instant où ce plaisir s'arrête, c'est la faute de souffrance qui apparaît. Et nous sommes toujours dans cette alternance de bonheur, de pseudo-bonheur, de plaisir et de souffrance, sans cesse et sans cesse et sans cesse. Rien ne peut rester stable. Et lorsqu'on parle là de bonheur, bien entendu, c'est un bonheur qui ne bouge pas une fois qu'il est réalisé. Il est définitif. Il n'est plus dépendant de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Et ce Nampetche, cette science de l'intérieur, nous amène progressivement à réaliser ce bonheur ultime. Et c'est justement parce que ce bonheur ultime existe, si vous voulez, que nous pouvons le réaliser. Et qu'il existe surtout en nous. Parce que, comme je disais, si c'était quelque chose à aller chercher dans un pays quelconque, ça serait un petit peu comme la quête du Saint Graal. C'est quelque chose qui reste dans l'esprit, mais qui n'est jamais trouvé. C'est un mythe, c'est un rêve impossible. Or là, c'est possible. C'est possible tout simplement parce que des êtres l'ont réalisé et on a leur exemple. Il en existe de nos jours, on peut les rencontrer, ces êtres-là. Donc, ils ont parcouru le chemin, ils ont réalisé le but. Donc, on a l'exemple bien concret. C'est quelque chose qui est évident. Et du fait des enseignements qu'ils nous donnent, eh bien, on peut nous-mêmes suivre le même chemin qu'eux et réaliser ce qu'ils ont réalisé eux-mêmes. Il est dit, le nirvana, donc l'au-delà de la souffrance, est dans le samsara, c'est-à-dire dans la souffrance. Ça veut dire qu'il ne faut pas échapper à la souffrance pour pouvoir réaliser l'au-delà de la souffrance, que l'un est compris dans l'autre. L'un se situe dans l'autre. C'est parce qu'il y a la souffrance qu'il y a l'au-delà de la souffrance. Et ça, c'est dans nos moments de clarté de l'esprit que nous pouvons percevoir cet au-delà, que cet au-delà est possible. Et c'est à travers la méditation, donc, progressivement, on va voir directement par nous-mêmes ces espaces qu'il y a dans notre esprit, ces espaces de clarté, de luminosité, de connaissance. On va voir, mais oui, il y a les nuages, mais derrière les nuages, il y a ça, il y a cette dimension, cette vastitude de clarté, de limpidité, d'intelligence qui est là. Et donc c'est là. Et comme on le voit à travers l'expérience, donc ça nous encourage, on comprend le sens de ça, si vous voulez. Et en fait, c'est cette capacité-là de pouvoir réaliser cet au-delà de la souffrance, c'est aussi une particularité du monde humain. Mais aussi sa grande force, de pouvoir à la fois expérimenter les deux faces du même miroir. C'est-à-dire que nous, c'est parce qu'on connaît la souffrance dans notre monde qu'on peut réaliser l'au-delà de la souffrance. Il existe d'autres mondes, des mondes humains, entre autres, où il n'y a pas la souffrance que l'on rencontre nous-mêmes. Ou le monde des dieux, par exemple. Les dieux, c'est des êtres qui ont certes beaucoup plus de pouvoir que nous, qui vont et qui vivent dans un monde où il n'y a pas de souffrance. Alors comment peuvent-ils réaliser l'au-delà de la souffrance, sachant que leur souffrance à eux n'est pas définitive, leur bonheur qu'ils rencontrent donc dans leurs conditions n'est pas définitif. C'est quelque chose qui va cesser un jour. Mais comme ils sont heureux tout le temps, quel intérêt de vouloir aller au-delà de la souffrance? Seulement un jour, ça va se caractériser, bien sûr, lorsque leur karma arrive à leur terme, un karma qui a permis de naître dans ces conditions en souffrance arrive à son terme, n'existe plus, est épuisé, eh bien, de nouveau, ils connaissent la souffrance. Mais tant qu'ils sont dans le bonheur, eh bien, quel intérêt de pratiquer l'enseignement du Bouddha, puisque je suis heureux. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça dans notre monde ici, des gens pour qui tout sourit, tout semble bien aller, des gens qui ont de l'argent, qui réussissent en amour, qui réussissent en affaires, ils semblent avoir tout ce qu'ils veulent, même s'ils sont malades de temps en temps, c'est, comparativement à d'autres qui souffrent le martyr, sont heureux. Et quel intérêt pour ces gens-là de pratiquer une voie qui mène à l'au-delà de la souffrance? Ils n'en ressentent pas le besoin. Donc ça veut dire que c'est à travers nos expériences de souffrance que se met en nous là, cette nécessité de trouver une solution à cette souffrance. Donc on cherche la voie qui va nous mener. Mais quelqu'un qui est heureux, il n'a aucun intérêt. Ça ne l'intéresse pas. Seulement voilà, c'est qu'un jour aussi, cette condition de bonheur, elle risque de cesser. Et à ce moment-là, peut-être ils vont se poser des questions. Mais c'est pour ça que notre particularité humaine, notre vie humaine est intéressante. C'est-à-dire qu'on connaît l'alternance entre les deux pôles, à la fois bonheur et souffrance. Petit bonheur, bonheur éphémère, mais hop, qui se transforme en souffrance, qui elle-même se retransforme en bonheur, etc. Et donc c'est en s'appuyant sur cette alternance-là que l'on peut évoluer. Par contre, si on ne connaissait que la souffrance, comme par exemple les mondes infernaux, les enfers, ou le monde des esprits avides, etc., ces dimensions de l'esprit où les gens n'ont pas un seul espace de liberté, eh bien, il n'y a pas la capacité non plus pour eux d'évoluer véritablement. Parce qu'ils sont toujours complètement englués dans leur souffrance, et il n'y a donc pas d'espace de clarté dans leur esprit, pas un seul espace pour la compassion. Alors que nous, en tant qu'humains, on connaît les deux pôles. Et c'est la force de ce monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que les êtres éveillés apparaissent, les Bouddhas apparaissent. Parce qu'il y a une capacité intéressante chez nous, il y a un terrain qui est propice à cette évolution vers l'éveil. Du fait de cette alternance entre bonheur et souffrance, alternance incessante. Vous voyez, l'idée c'est ça. Il est dit, il serait à la fois aussi dangereux de penser qu'il ne peut pas y avoir de joie dans l'expérience humaine que de minimiser la souffrance du samsara. Alors, ça nous ramène bien entendu à cette idée que le cycle des existences est souffrance par nature, certes, mais ça n'empêche pas quand même qu'il y a des moments de joie. On rencontre des moments de joie, tout n'est pas que souffrance. Mais le problème, c'est que ces moments de joie ne durent pas et se transforment automatiquement en souffrance. Lorsque le Bouddha explique que le samsara n'est que souffrance, cela ne nie pas, bien entendu, comme je disais, certains moments agréables, et il dit, mais veut dire que même les petits moments de bonheur, de plaisir ou de joie sont éphémères. Alors je reprends les paroles donc, du Bouddha, et que ça se termine immanquablement par la déception et la souffrance. Donc, l'idée, c'est ça. Et dans les textes en sanskrit, il y a un mot qu'on appelle dukkha. Dukkha, mais c'est dugnel en tibétain. Donc, et c'est le mot qui est utilisé pour désigner ce que nous traduisons nous-mêmes dans nos langues occidentales par souffrance. En effet, donc, si vous voulez, l'idée de dukkha, ça comporte bien évidemment le sens de souffrance. Mais, comme j'expliquais un peu tout à l'heure, il implique des notions beaucoup plus profondes que cela. Par exemple, dans ce terme dukkha, ça implique autre chose, par exemple l'imperfection, le changement, les conflits, la vacuité, la non-substantialité. Donc le mot dukkha comprend le sens de tout ça dans un seul mot. Pour un asiatique, si vous voulez, quelqu'un qui connaît le sanskrit ou le tibétain dugnel, le mot dugnel en lui-même comprend toute cette perspective-là. Alors que nous, dans notre mot de souffrance, que ce soit en français ou dans les langues occidentales, ça n'inclut pas tous ces paramètres-là. Bon, ça veut dire que pour nous, le mot souffrance, la compréhension du mot souffrance est très limitée. Et d'une manière générale, ça se cantonne qu'à nos petits malheurs quotidiens, personnels. Et on va voir donc que le sens de cette notion de souffrance est beaucoup plus vaste, bien entendu, que cela. Est-ce que vous avez des questions ? Myriam ?
Oups, mon cœur en route. Ah, c'était toi.
Vous dites que le plaisir se transforme inévitablement en souffrance. Est-ce que pour éviter de souffrir, il faut fuir le plaisir ?
Très bonne question. En fait, les plaisirs que nous connaissons sont fondés toujours sur le désir et l'attachement. Et c'est pas le plaisir en lui-même qu'il faut fuir, mais c'est le désir et l'attachement. C'est ça qui crée la souffrance, et on verra tout au long de l'enseignement. Donc il n'est pas question de fuir les plaisirs, il est simplement question de ne pas s'y attacher. Voilà.
Mais le désir, il est vivant en nous. Est-ce que c'est l'attachement porté au désir qui crée la souffrance, ou est-ce qu'il faut, à chaque fois que le désir apparaît, le mettre dans sa poche, et à ce moment-là, on ne marche pas droit non plus?
Il y a des désirs qui éveillent, et il y a des désirs qui mènent vers l'obscurité. Les désirs qui sont dirigés vers l'éveil, qui sont dirigés vers le bien des êtres, ce sont des désirs qui font grandir, qui embellissent. Les désirs qui sont fondés sur l'égoïsme, ce sont des désirs qui sont générateurs de souffrance. Et si il y a certains désirs que nous souhaitons développer en nous, c'est des désirs de réaliser l'état de Bouddha, des désirs de développer des capacités en nous qui vont être utiles à l'humanité, qui vont être utiles à notre propre évolution. J'ai le désir, on parle plutôt de souhait à ce moment-là, de devenir plus compassionné, plus aimant, plus attentif aux autres, de développer plus de générosité, une meilleure éthique de vie. Ça, ce sont des désirs qui embellissent, qui illuminent, qui mènent vers la connaissance, vers la libération. Par contre, tous nos petits désirs égoïstes, tournés uniquement vers nous-mêmes, bien souvent qui sont fondés sur l'attachement à des futilités, à des objets matériels, à des positions sociales, à des intérêts complètement personnels, ça, c'est ce qui entretient le cycle des existences. Donc il faut faire la part des choses. Donc il suffit. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir comme un caillou où cette table, par exemple, elle n'a pas de désir elle-même. Mais comment peut-elle réaliser l'état de Bouddha? Et c'est en nous fondant justement sur nos désirs que nous pouvons avancer, réaliser l'éveil, à condition d'orienter nos désirs vers la lumière et non pas vers les ténèbres.
que la souffrance ne fait pas partie du karma?
Bien entendu, parce que c'est le karma qui... c'est-à-dire la force des actes que nous avons accomplis dans les vies passées et notre manière d'appréhender la réalité qui fait que nous prenons renaissance dans le cycle des existences où le maître mot c'est la souffrance et la déception. Donc c'est toujours lié, si vous voulez, à des antécédents. On a créé cette condition. Cette condition, c'est comme un rêve, si vous voulez. Quelqu'un qui ferait un mauvais rêve, c'est toujours lié. Nos rêves la nuit sont liés à ce que nous avons fait la journée, à ce que nous avons vécu dans notre vie, etc. Et le rêve, il peut prendre une connotation agréable ou désagréable. Et bien, comme nous avons à la fois accompli des actes positifs et négatifs dans nos vies passées, nous sommes confrontés à un monde, à renaître dans un monde tel que le nôtre, dont la caractéristique, c'est de rencontrer l'alternance entre la souffrance et des moments de plaisir, de bonheur. Voilà, et donc c'est toujours lié, bien entendu, à des causes. Mais ça ne vient pas de quelqu'un qui nous a imposé ça. Parce que l'erreur, ça serait de se dire, oui, mais voilà, comme j'entends souvent, par exemple, chez les gens qui pratiquent des voies monothéistes, de dire, eh bien, s'il m'arrive ça, c'est Dieu qui l'a voulu. Ou si je suis heureux, c'est grâce à Dieu. C'est toujours quelqu'un d'autre, finalement. C'est peut-être pas le voisin cette fois-là, mais c'est Dieu qui est responsable de ma vie. Du point de vue de l'enseignement du Bouddha, ça tient pas la route, ça. Alors évidemment, je veux pas évidemment créer de polémique par rapport aux autres religions, mais on a une compréhension qui est complètement différente. C'est nous-mêmes qui sommes la cause de nos malheurs ou de notre bonheur. C'est nous-mêmes qui avons semé les graines par le passé et nous récoltons ce que nous avons semé. Et c'est pour ça qu'il y a toute une diversité d'êtres, même dans cette salle. Ben, on a chacun une histoire, on a une expérience différente de la vie. Certains ont connu peut-être une vie très agréable, etc. Et d'autres avec beaucoup de malheurs, beaucoup d'épreuves, etc. Et donc, ça nous est personnel. Ces expériences nous sont personnelles. Et elles sont, bien entendu, le résultat de ce que nous avons créé dans les vies passées. Et c'est aussi ce que nous allons étudier au cours de cet enseignement. C'est la loi de causalité ou la loi du karma. Donc on va l'étudier à travers cet enseignement-là. Donc en fait, les quatre nobles vérités servent de colonne vertébrale, de fil rouge à une diversité d'enseignements qui vont se greffer là-dessus. Et entre autres, bien sûr, l'enseignement sur le karma. Donc il n'y a jamais rien pour rien. Tout est le fruit d'une cause.
Une deuxième question. Alors, si la souffrance fait partie du karma, est-ce qu'on peut échapper à son karma?
On a chacun notre karma, oui. Mais il y a des karmas qui sont semblables. Et les fruits, donc, sont semblables et sont expérimentés pour certains au même moment. Par exemple, des gens qui sont 30 ou 40 ou 100 personnes à mourir au même moment dans un crash d'avion, un accident d'avion, eh bien, ils ont causé par le passé, ils ont créé des causes semblables individuellement et ils récoltent le fruit de ces causes à un moment donné sous une forme semblable. Et c'est ce qui fait, donc, souvent on parle de karma collectif, mais le karma collectif n'existe pas véritablement. Il y a des karmas individuels qui s'assemblent et se ressemblent. Mais en fait, le karma, il est individuel. J'ai mon karma, vous avez le vôtre chacun, et il y a peut-être des aspects qui se ressemblent, et d'autres qui sont différents. Et voilà, c'était très complexe la loi du karma. Il est dit que seul un Bouddha peut comprendre le sens véritable. Nous, on n'en a qu'une idée, après, très sommaire. Bah oui, si je sème du blé, je récolte du blé. Si je sème de l'avoine, je récolte de l'avoine et pas du blé. Voilà. Et l'idée, c'est ça. Mais elle est simple, comme ça, expliquée de cette façon-là. Mais c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus profond que ça. Parce que ça implique tellement de paramètres à l'infini que seul, il est dit, un Bouddha peut comprendre le sens de cela. Mais nous sommes quand même, nous-mêmes, responsables de nos actes. Responsables de ce qui nous arrive maintenant, mais aussi responsable de ce qui va nous arriver dans le futur, à partir de ce que nous accomplissons comme acte maintenant. La manière dont nous orientons notre vie, si c'est d'une manière égoïste ou d'une manière beaucoup plus vertueuse, eh bien, nous aurons à récolter les fruits de cela. Si c'est égoïste, si c'est fondé sur l'accomplissement d'actions négatives, eh bien, nous récolterons les fruits dans le futur sous forme de souffrances, diverses souffrances, qui nous seront vraiment particulières et personnelles. Et à l'inverse, si nous utilisons cette vie pour créer la vertu, pour pratiquer, pour développer en nous et mettre en application des choses positives, des actions, des pensées, des paroles positives, eh bien, dans le futur, nous récolterons Souvent, ça se caractérise même aussi dans cette vie quand la pratique est intense, mais surtout dans les vies futures, dans les renaissances, et bien des renaissances qui seront caractérisées par le bonheur, bien entendu. Donc en fait, nous sommes complètement responsables de nos actes. Et dire c'est de la faute des autres, c'est de la faute du voisin, c'est de la faute de mes parents qui m'ont mal élevé, ou de ma femme ou mon mari qui me pourrissent la vie, c'est à cause d'eux que je suis devenu comme ça, méchant, etc. Ou quand on n'a pas d'argument, c'est la faute de Dieu. Non, ben non. Tout ça, du point de vue de l'enseignement du Bouddha, c'est complètement erroné de penser ça. S'il y a une seule personne à récriminer ou à gronder, on pourrait dire, eh bien c'est nous-mêmes. Parce que dans le passé, nous avons créé les causes de ce que nous sommes maintenant. Et ça, c'est une vérité donc, qui est relative à la deuxième noble vérité, hein, donc l'origine même de la souffrance. Donc on en parlera tout au long de cet enseignement, bien entendu. Là, j'anticipe un petit peu pour répondre à votre question. Micro parce que c'est enregistré.
Et là où c'est injuste, c'est qu'en fait on s'en souvient pas parce que c'est en vue future, enfin passé pardon, et puis on va souffrir en vue future. Donc bon, il y a un sentiment de...
On s'en souvient pas, oui bien sûr, mais c'est surtout parce qu'on ne connaît pas cette loi. Si elle était enseignée à l'école, au lieu de nous enseigner des âneries qui ne nous servent pas dans la vie pour la plupart, si on nous enseignait des choses humaines comme ça, de valeur, eh bien on serait imprégné de ça, et connaissant justement cette loi, eh bien on ferait attention. Imaginez que moi je sois dans cette salle. Je ne suis pas le lama, je suis quelqu'un comme vous qui écoute l'enseignement d'un lama. Puis je vois une dame au fond qui est là, qui a son sac à côté d'elle, mais elle ne me voit pas, son sac est ouvert, je vois son porte-monnaie qui est là, puis je me dis tiens, si je lui pique, personne ne verra rien finalement, il y a tellement de monde dans la salle, et puis je peux m'en aller, ni venu connu, j'emmène l'argent, et voilà, personne ne saura que c'est moi. Mais si j'ai conscience de la loi du karma, si je sais qu'en faisant ça, je récolterai les fruits plus tard sous forme de souffrance, mais je ne ferai pas. Je deviens responsable de mes actes. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'un gendarme pour me surveiller et dire ce qu'il faut faire et pas faire. Je deviens mon propre gendarme, le gendarme de moi-même. Et c'est en ça que le bouddhisme est une tradition qui nous apprend à devenir adultes et responsables. Alors voilà, peut-être on ne se rappelle pas ce qu'on a fait dans le passé, mais on sait très bien que si je fais ça, je récolte le fruit sous forme de souffrance, donc je ne le fais pas. Ou alors si je continue à le faire, c'est que je n'ai pas bien compris le sens de ça. Ou je n'y crois pas, à cette loi. Et pourtant, elle est vérifiable dans notre vie quotidienne, on n'a pas besoin de grands scénarios pour nous montrer comment ça fonctionne. Je veux dire, si vous êtes aimable, gentil avec les autres, etc., les gens viendront autour de vous, vous aurez de nombreux amis, vous regrouperez les gens autour de vous, vous serez aimé. Si vous êtes quelqu'un d'infâme, d'égoïste, d'orgueilleux, etc., les gens vont vous fuir et vous retrouver tout seul. Ben ça, c'est un exemple très au quotidien de ce que peut être la loi du karma. Alors vous me direz, bien sûr, oui, mais moi j'ai été gentil dans cette vie et il m'arrive que des malheurs, que des problèmes, etc., etc. Ben oui, parce que vous récoltez ce que vous avez semé dans votre vie d'avant. Mais par contre, le fait de développer la gentillesse, la bonté, la générosité dans cette vie, ça sème les graines de bonheur pour la vie d'après. Voilà. Donc même si on ne se rappelle pas de ce qu'on a fait, on sait très bien que ça fonctionne comme ça. Si j'accomplis le mal, je récolte la souffrance. Si j'accomplis le bien, je récolte le bonheur. C'est tout simple. Même si la loi est compliquée. Du point de vue de l'esprit. C'est une loi de l'esprit, c'est pas une loi bouddhiste. Il y en a qui pensent, oui, mais ça c'est bouddhiste, ça n'existe pas ailleurs. Mais non, c'est une loi universelle. Elle s'adresse à tout le monde, elle s'adresse aux bouddhistes, aux non-bouddhistes, aux tenants d'autres traditions, d'autres religions. Seulement c'est pas enseigné. Ou très peu, ou d'une autre manière, qui n'est pas forcément compréhensible par les gens. Dans le bouddhisme, on détaille bien ça, on explique bien ça. Et on peut le vérifier nous-mêmes à travers la pratique. C'est pas quelque chose simplement qu'on va nous dire comme ça, que l'on doit croire un petit peu comme un imbécile, et puis voilà. Non, non, le Bouddha dit, vérifie par toi-même, et tu verras, c'est bien comme ça que ça marche. Donc c'est en ça que le bouddhisme n'est pas un dogme. Le bouddhisme ne nous impose pas des règles comme ça, comme à des enfants qui ne pourraient pas réfléchir. Le Bouddha a toujours enseigné les choses, il a dit, mais croyez pas ça parce que c'est moi qui vous le dis, parce que les prêtres vous disent telle ou telle chose. Croyez-le seulement si vous avez expérimenté ça, si vous avez compris le sens à travers vos expériences, à travers la pratique. Donc ça, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Parce que si quelqu'un décidait pour moi entre mon bonheur et ma souffrance, ça me serait insupportable. Mais de quel droit il y a quelqu'un là-haut dans le ciel qui déciderait de ma souffrance, mon bonheur, ma vie, ma mort en fonction de je ne sais quoi, de son bon plaisir? C'est insupportable ça. Donc c'est personne d'autre que nous qui forgeons notre vie et notre avenir. C'est personne d'autre que nous qui forgeons notre souffrance ou notre propre bonheur. Personne d'autre à notre place peut le faire. Ça, moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Enfin, c'est plus une nouvelle pour moi maintenant, mais ça peut peut-être l'être pour vous, pour ceux qui n'ont pas encore connaissance de ça. Et ça, on va développer, bien entendu, au cours de l'enseignement, cette dimension-là. Allez-y, la question.
Vous disiez tout à l'heure que le karma des êtres était en train de changer ou avait changé, et que c'est ce qui avait amené donc ce fameux changement dans l'enseignement du bouddhisme. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus quelle est la nature de ce changement ou qu'est-ce qu'il a produit?
C'est karmique. C'est karmique. Ça veut dire qu'à l'époque du Bouddha, les gens qui entouraient le Bouddha avaient besoin d'un certain enseignement pour pouvoir progresser, qui était relatif au Hinayana, puisqu'il progressait très vite avec ce véhicule-là. Et le Bouddha n'avait pas besoin d'expliquer quelque chose d'autre que ça. Après, plus tard, ça s'est modifié. On a enseigné un petit peu le Mahayana, et puis surtout le Vajrayana. Le Vajrayana, parce que les temps étaient difficiles, des pays comme le Tibet, où les gens étaient très coléreux, c'était des magiciens, c'était des barbares, il leur fallait quelque chose de strong, comme un ouvre-boîte, vraiment très puissant, pour pouvoir desserrer leur ego, leur violence. C'était d'actualité. Hein. Et c'est, par exemple, au Xe siècle, XIe siècle, et même avant, c'était un moyen, si vous voulez, qui était très efficace. Et lorsque les Tibétains, bien sûr, sont arrivés en Occident, suite à l'envahissement de leur pays par les Chinois, donc ils ont fait connaissance avec l'Occident, et ils ont vu la nécessité d'enseigner aussi aux Occidentaux, pour eux-mêmes les libérer de la souffrance, les aider, mais aussi pour préserver leur sagesse. Alors ils sont arrivés avec tout leur arsenal, l'arsenal qu'ils connaissaient principalement et qu'ils avaient pratiqué depuis des siècles, c'est-à-dire le Vajrayana, hein, qui fait partie du Mahayana, du grand véhicule. Les yana, ça veut dire véhicule, hein, en sanskrit. Hein, Hinayana, ça se réfère au véhicule de base. On parle de petits véhicules, mais ça ne veut pas dire véhicule inférieur, mais ça veut dire que c'est un enseignement de base. Mahayana, c'est le grand véhicule, véhicule qui inclut la compassion. Hein? Hinayana, les gens qui pratiquent, c'était pour leur propre libération personnelle. Et ça suffisait à l'époque du Bouddha. Après Mahayana, on se tourne vers les autres, on développe l'altruisme. Et Vajrayana, c'est le véhicule de diamant. Là, il utilise des moyens extrêmement puissants, travaille sur les énergies, sur les divinités, les visualisations, etc. Et quand les Tibétains sont arrivés, ils nous ont enseigné surtout cet aspect-là, Vajrayana, en Occident. Et on s'est rendu compte en 35 ans, 40 ans, que ça marchait au début et que maintenant ça ne marche plus, que les gens ne progressaient pas avec cette voie-là. Et nous-mêmes, les enseignants, on s'en est rendu compte. Moi, depuis 30 ans que je suis dans le bouddhisme, je me suis rendu compte qu'il y avait un changement de compréhension parmi les gens et que cette voie-là n'était plus valable. Alors évidemment, ce n'était pas de mon propre chef que j'aurais pu décider de changer les choses. Ça vient bien sûr des Bouddhas, des grands maîtres réalisés, comme Sasantekarmapa, Dalai Lama, etc., qui eux-mêmes ont dit qu'il fallait modifier cela. Et plus enseigner maintenant du domaine du Mahayana plutôt que du Vajrayana et du Hinayana. Parce que les gens ont besoin vraiment de développer beaucoup plus la compassion maintenant, l'entraide les uns entre les autres, et que toutes ces pratiques puissantes sur les énergies, etc., ça les menait à rien finalement, parce qu'il y avait trop d'ego dedans, trop d'intérêt personnel. Donc il fallait modifier cela. Donc on revient aux bases, c'est-à-dire la méditation assise, le développement de ce qu'on appelle le calme mental, shamatha, hein, en sanskrit, le développement progressivement de vipassana, hein, en tibétain ça s'appelle l'acton, donc la vision profonde, et de pratiquer au quotidien l'altruisme. Hein, d'apprendre l'entraînement en 7 points, etc. Donc ça n'exclut pas, bien sûr, d'enseigner certaines méthodes du Vajrayana à certains êtres qui sont prêts pour ça. Mais ça ne sera plus un enseignement maintenant qu'on va donner d'une manière générale. On revient aux bases. Déjà, apprendre à devenir un meilleur être humain. Ça, c'est la première chose à faire. Comment peut-on réaliser l'état de Bouddha si déjà nous-mêmes, on n'apprend pas à devenir meilleur au quotidien? Vous voyez? Donc on en revient aux bases. Et c'est pour, par compassion, bien sûr, que les êtres éveillés donnent ça et changent ça. Parce que c'est comme un médecin, s'il voit que le traitement qu'il vous a donné ne vous guérit pas, il a envie de vous soigner, le médecin, il va changer son traitement. Parce que le traitement d'avant n'était pas adapté. Ah, c'est tout simple. Mais c'est pas minimisant, c'est pas réductif, si vous voulez. Ça veut dire que le médicament qu'on donnait avant, ben, il ne vous soigne pas. Il ne vous fait pas progresser, il ne vous permet pas de guérir. Donc on change. On change le traitement. Bon, le problème, c'est qu'il n'est pas remboursé par la sécu, celui-là. Mais bon.
Peut-être on peut penser justement que... Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que de plus en plus de gens sont en recherche spirituelle et donc se tournent peut-être vers le bouddhisme, qui est de plus en plus visible et lisible un peu partout. Et que justement, il y a quelques années, enfin 30-35 ans, je ne sais pas, au début où le bouddhisme était enseigné, il est enseigné à des gens qui avaient peut-être un chemin un petit peu plus avancé et qui avaient fait un chemin plus difficile parce qu'il fallait aller par son propre moyen à la rencontre de personnes comme vous ou de lieux. Voilà, et c'est peut-être ce qui a changé aujourd'hui, non? Et que du coup, on est...
Oui, il y a ça. Et puis, je sais pas, les temps ont complètement changé. Moi, je me souviens, à l'époque, quand j'ai débuté, la première fois que je suis arrivé près de mon maître, il venait d'arriver. On n'avait même pas de centre, rien. Les gens vivaient sous des tentes, dans des vieilles caravanes, etc. Et tout, quand j'ai vu toutes ces espèces d'énergumènes qui étaient regroupés autour du maître, je me suis dit, mais attends, où est-ce que j'ai mis les pieds? Je dis, bah cool, avec des longs cheveux, qui grattait de la guitare toute la journée, qui fumait des pétards du matin au soir. Je me suis dit, mais c'est quoi? Donc ça correspondait à une époque. Et ces gens-là, c'est ceux qui avaient parcouru les routes d'Asie, Katmandou, etc., qui avaient voyagé. Et donc l'enseignement s'adressait à ces gens-là à l'époque. Comme c'était un peu des barbares, bon, on leur a donné des moyens qui pouvaient leur permettre d'évoluer en fonction de ce qu'ils étaient. Mais les temps ont changé. Ces gens-là ont disparu maintenant. On ne les trouve plus dans les centres. On trouve des gens maintenant comme vous, qui sont insérés socialement, qui ont un boulot, qui ont une famille, qui ont des enfants, qui ont une situation sociale qui est stable, plus ou moins, bien sûr, en fonction, évidemment, de notre époque, qui est quand même difficile pour le boulot. Mais je veux dire, comparativement à ce qu'on a connu avant, c'est le jour et la nuit. Moi qui ai connu vraiment l'évolution, je me rends compte que maintenant, on a affaire à des gens responsables. À l'époque, les gens étaient complètement irresponsables. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Donc on leur donnait un enseignement et des méthodes qui correspondaient à ce n'importe quoi.
Oui, mais c'est peut-être les gens qui ont évolué aussi. C'est-à-dire ces anciens babacools, c'est peut-être nous, maintenant.
Aussi. 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 Je dirais pas que j'en suis l'exemple aussi, mais c'est un peu ça, quoi. Mais voilà. Peut-être pas à ce point-là quand même, parce que j'étais assez effrayé quand je voyais ça, quand même. Mais je participais quand même au jeu, parce que voilà... Là. À l'époque, j'étais quand même SDF, j'étais. Voilà. C'est un peu une vie, vraiment pas d'insertion sociale. D'une certaine manière, c'était ça. Mais les choses ont évolué. Ça prouve déjà qu'on peut changer soi-même. Déjà. Ça prouve ça. Alors, il y a ceux qui ont changé. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas changé et qui sont partis. Qui ont été remplacés par d'autres gens qui ne sont pas passés forcément par ce cursus, mais qui ont une autre histoire. Voilà. Et il faut s'adapter, bien sûr, on pourrait dire aux patients, au public. Mais c'est aussi ça. Nous sommes tous des malades, moi compris, et on a besoin de se soigner. Donc on a besoin de médicaments qui soient adaptés à ce que nous sommes. Et voilà. Et il n'y a rien de réducteur là-dedans. Je me rappelle au début quand on pratiquait le Vajrayana, que je voyais mon maître tourner autour de feu avec un tambourin qui soufflait dans un fémur humain, avec un crâne humain et tout ça. Je me disais, attends, c'est quoi? C'est de la magie, etc. Mais c'était nécessaire à ce moment-là. Mais en même temps, les Occidentaux n'ont pas compris ça. La plupart des pratiquants ont pris ça pour des choses merveilleuses. Alors il y avait toujours la recherche de pouvoir derrière, la fascination par tout ça. Et c'est pour ça aussi que ça n'a pas marché. parce que ça correspondait plus à notre mentalité. Donc, il a fallu changer tout ça et revenir à des choses beaucoup plus relatives et de notre vie quotidienne, je veux dire. Quand on parle de l'altruisme, de la fraternité entre nous, de l'entraide, c'est quelque chose qui est complètement, peut-être plus encore d'actualité de nos jours, parce que les gens sont tellement égoïstes. On regorge de tout, de nourriture, de vêtements, on a tout ce qu'il faut, même si les temps quand même sont un peu plus difficiles maintenant, mais je veux dire, comparativement à d'autres pays, je veux dire, on est des gens privilégiés, et cependant, on est de plus en plus égoïstes. On pense qu'à soi. Il y a toujours des exceptions, bien sûr, il y a des gens qui font de belles choses autour de nous, hein. Mais je parle d'une manière générale, hein. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a des gens qui font des choses remarquables. Mais la majorité des gens, quand même, de ces gens, sont fixés que sur eux-mêmes. Ils veulent bien peut-être accomplir le bien, mais à ceux qui nous entourent, ceux qui sont proches de moi, parce que je les aime, donc c'est plus facile, mais les autres... Ouais. Donc il faut s'adapter, si vous voulez, à cette situation-là, et donner les bons moyens d'évoluer. Et l'élevage Rayana, bien entendu, n'est plus du tout de mise à notre époque. Ce qu'il faut, c'est vraiment quelque chose qui nous permette de développer des qualités au quotidien, des qualités de générosité, de patience, avoir une conduite éthique. Maintenant, on a l'impression que tout est permis. On fait tout et n'importe quoi. Sous prétexte qu'il faut communiquer dans la presse, le web, etc. On fait circuler n'importe quoi, vraiment à l'encontre de toute éthique, il n'y a plus de retenue en rien. C'est vrai, on peut le constater, s'il faut être franc quand même, il faut être réaliste. On le voit au quotidien, on a l'impression que sous prétexte de liberté, qu'il ne faut pas entraver la liberté de chacun, alors tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, n'importe quoi, de faire ce qu'il veut. Donc il y a une confusion qui est totale à l'heure actuelle dans le comportement des humains. Et donc le moyen le plus adapté maintenant, c'est justement de redévelopper ces bases, des conduites éthiques, de vraiment de valeurs qu'on perd progressivement. Même nous, si on s'en rend pas compte, si on n'est pas vigilant suffisamment, eh bien on glisse tout doucement, on prend l'habitude, des habitudes nouvelles, sous prétexte qu'il faut s'adapter au modernisme. Moi, je regardais le site, je suis sur Facebook là, et puis alors c'est assez drôle, je regarde les sites des gens, les murs des gens, ce qui marque et tout, et puis entre autres des jeunes. J'ai un petit fils qui a 16 ans et je regardais son site tout à l'heure, j'étais halluciné, je me dis, mais comment, je comprenais même pas ce qui marquait, ils ont un langage, je me dis c'est une autre langue, c'est autre chose. Alors quand ils parlent avec moi, bien sûr ils essayent de s'exprimer normalement, mais entre eux ils ont un dialecte avec des visions du monde qui leur sont particuliers, et on sent qu'il y a la confusion là-dedans, dans tout ça. Ça paraît pas évidemment grave comme ça d'emblée, mais on a l'impression que le monde glisse tout doucement vers ça. D'abord, ils font une faute par mot, une faute d'orthographe par mot quand ils essayent d'écrire bien. Il y a quelque chose qui va plus, quoi. Donc il faut revenir à certaines bases, et l'enseignement du Bouddha doit s'adapter à ça, à cette nécessité. Et moi, l'enseignement que je donne très couramment maintenant et que j'ai recommencé à donner là il n'y a pas longtemps, le thème c'était devenir un meilleur être humain. Déjà, et la première chose, apprendre à s'aimer soi-même. Et quand on parle s'aimer, c'est pas aimer ses caprices, hein, aimer les caprices de l'ego. C'est apprendre à s'apprécier dans ce que nous sommes, dans nos qualités. De voir qu'on a la nature de Bouddha en nous, qu'on a la qualité de sagesse en nous, et ça se fonder sur cette qualité pour pouvoir évoluer, mais aussi en même temps accepter ses défauts, accepter que nous n'avons pas que des qualités, mais nous sommes aussi pétris de défauts, et pas les nier ces défauts, et qu'il faut travailler avec, il faut s'appuyer sur ses défauts pour développer les qualités. Donc on en revient aux bases, apprendre à s'aimer, à s'apprécier, et accepter qu'on ne soit pas parfait, pour devenir parfait. Parce que si on n'accepte pas que nous sommes pas parfaits, que nous ayons des défauts, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas travailler sur ces défauts. On va penser que les défauts sont que chez les autres. Donc on ne fera rien pour les améliorer, ces défauts. Donc on en revient vraiment aux bases. Apprendre à s'aimer. Apprendre à voir comment on fonctionne au quotidien. C'est-à-dire que nous sommes sans cesse pris par l'espoir et la crainte. Cette alternance-là du domine au quotidien. L'espoir et la crainte, ça veut dire le désir et la peur. Le désir aussi et le rejet. Et on fonctionne sans cesse sur cette alternance. D'en prendre conscience, il faut revenir à ça pour pouvoir travailler avec. C'est ça, apprendre à devenir un meilleur être humain. progressivement. Puis il y a plein de paramètres comme ça que je me remets à enseigner, que j'avais arrêté d'enseigner depuis des années, mais parce que c'est nécessaire actuellement. Vous voyez ?
Oui, par rapport à l'évolution dont vous parlez, moi, il y a une chose qui me frappe dans ce, depuis,
par rapport
à l'évolution dont l'évolution, vous parlez depuis une quarantaine d'années. Moi, il me semble qu'il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, c'est le mot psychologie. Et le fait que vous parliez de souffrance, par exemple, au lieu de parler de péché ou de notions comme salut, péché, qui sont présentes dans notre culture...
J'ai pas utilisé ces termes.
Oui, je sais bien, vous n'avez pas utilisé. Vous parlez de souffrance. Et donc, je voulais faire le rapprochement avec la psychologie occidentale, dont on sait très bien aujourd'hui que plein de notions qui viennent du bouddhisme l'imprègnent complètement, surtout en Amérique du Nord. Ça vient aussi chez nous petit à petit. Et donc, du coup, les gens qui sont ici, peut-être en partie, sont aussi des gens qui sont préoccupés par tout ce courant qui est celui de la psychologie, alors que c'était peut-être pas le cas il y a 40 ans.
Oui, il y a une évolution aussi des choses, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la pratique du bouddhisme ne correspond pas à la psychologie occidentale. La psychologie occidentale, elle agit sur un certain niveau du mental, mais le bouddhisme lui dépasse la notion de mental. Alors dans la psychologie, bien entendu, on essaye de comprendre les causes de notre propre souffrance, de ce que l'on vit, des difficultés qu'on rencontre, de notre dépression. Alors pour ça, la psychologie va nous faire retourner en arrière, voir dans notre enfance ce qu'on a subi peut-être comme traumatisme, ce qui aurait pu être à l'origine, etc. Donc il y a un retour en arrière qui va nous permettre peut-être un jour de prendre conscience que tel événement, en effet, a déclenché telle situation en nous, et en fait, donc il y a une détente qui va s'opérer, et ça ne va pas résoudre le problème de fond qui est de l'ordre karmique, mais ça va permettre une certaine détente, une acceptation de notre condition actuelle en comprenant les tenants et les aboutissants. Mais par la psychologie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas réaliser l'éveil d'un Bouddha, c'est pas possible, ça n'agit pas au même niveau. Mais par contre, on ne peut pas nier l'utilité de la psychologie. La psychologie, on pourrait dire, c'est une première étape qu'on peut utiliser pour pouvoir après devenir un pratiquant du dharma si on est quelqu'un de très déstructuré. Souvent, je conseille à des gens, moi-même j'ai pratiqué la psychologie à la fois comme patient mais aussi comme enseignant, et je conseille aux gens de plutôt avoir affaire à des thérapeutes, faire une psychanalyse soit personnelle ou soit de groupe, thérapie de groupe, pour pouvoir régler certains problèmes qui empêchent la personne de s'accepter, de s'aimer elle-même, d'évoluer, pour pouvoir ensuite aborder la pratique du dharma d'une manière beaucoup plus saine, c'est-à-dire de se restructurer soi-même. Donc c'est complémentaire, si vous voulez, mais il ne faut pas confondre les deux choses. Le dharma, c'est une chose, la psychologie occidentale, c'est une autre chose. Alors certains peuvent allier les deux, en effet. C'est peut-être la tendance qui est actuelle, mais il faut faire attention, parce qu'il y a des risques de confusion, des risques, il y a des dangers, si vous voulez, potentiels qui peuvent apparaître avec cela. Le principe même du bouddhisme, ce n'est pas de retourner en arrière par le passé pour savoir quel est le traumatisme qui fait la personne que nous sommes actuellement. Le bouddhisme n'agit pas de cette manière. Le bouddhisme dit, ce que nous sommes ici et maintenant, nous sommes la totalité de notre histoire, le résultat de notre histoire. Et la souffrance que nous avons subie jusqu'ici, le fondement même, la cause principale, c'est la saisie de l'ego. Si on tranche ici et maintenant la saisie de l'ego, si on purifie ça, tout le passé est purifié. Donc vous voyez, la perspective n'est pas la même, on ne joue pas sur le même registre. Le bouddhisme, c'est dans l'ici et maintenant qu'on règle les problèmes. La psychologie, c'est dans la recherche d'un certain passé. Bon, je schématise un peu. Hein. Voilà. Alors mélanger les deux, peut-être, mais il peut y avoir des risques de confusion. Et on a souvent vu ça dans tous ces mouvements plus ou moins New Age, psychologie qui se sont développés. Il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été faits. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus au bouddhisme, qui ont pratiqué certains yogas ou certaines de ces techniques-là et qui ont été complètement cassés et déstructurés. Et des gens qui étaient, et beaucoup ont fini d'ailleurs en HP. justement parce qu'on fait n'importe quoi, on s'imagine qu'on peut tout mélanger, on prend un petit peu de telle religion, un petit peu de telle philosophie, un petit peu de celle-ci, un petit peu de cela, on mélange tout, on fait un melting pot, et les gens en général qui font ça croient peut-être à ce qu'ils font, mais comme ils sont dans la confusion eux-mêmes, hein, on peut donner aux autres que ce qu'on est. Quelqu'un qui n'est pas libéré de la souffrance et qui fait un espèce de mélange, qui fait sa salade, qu'est-ce qu'il va donner aux autres? Il va donner sa propre confusion. Donc la première chose à faire, si on veut aider les autres, c'est déjà que commencer à régler nos propres problèmes, notre propre confusion personnelle. Et c'est ce que propose le bouddhisme. Ça ne nous empêche pas de commencer à aider les autres progressivement, mais on pourra vraiment être aidant nous-mêmes quand on aura réglé nos propres problèmes. Donc voilà. Et c'est ça qu'il faut... Je me souviens d'une fois, la mère d'une nonne, qui est une amie que je connais depuis très longtemps et qui était, je pourrais dire, mais qui est encore une psychanalyste réputée, mais qui pratique plus maintenant. Et elle était très médiatisée, etc. Et elle soignait beaucoup de gens, etc. Mais c'est une personne qui était complètement déstructurée intérieurement. En fait, qu'est-ce qu'elle pouvait donner aux autres que ses propres problèmes, finalement. Puisqu'on peut donner aux autres que ce qu'on possède. Hein. Si on n'a pas la sagesse, on ne peut pas la donner. Un jour, elle est venue voir mon maître, qui est un maître réalisé, qui est décédé maintenant. Elle avait arrêté de pratiquer pour se consacrer plus au bouddhisme. Et puis, elle a été lui demander, mais Rinpoche, est-ce que je voudrais recommencer à soigner les autres, etc. Et tout de suite, il a dit, surtout pas. Mais surtout pas. Ne fais surtout pas ça. Soigne-toi d'abord toi-même. Tu en as besoin. Et en fait, il s'est avéré que cette personne-là n'a pas vraiment fait ce que son maître avait dit. Et elle est dans un état maintenant lamentable. Alors heureusement, elle s'occupe plus des autres. Heureusement. Mais vous voyez, donc, en effet, on peut donner aux autres que ce qu'on possède. Si je n'ai pas la sagesse, je ne peux pas la donner aux autres. Si je ne suis pas libéré moi-même de la souffrance, comment puis-je libérer les autres de la souffrance? Et c'est ça le danger dans toutes ces techniques qui sont faites maintenant. Et la plupart, c'est des gens qui fortifient leur ego, qui ont l'impression d'exister en pratiquant ça, ou d'autres, c'est pour le fric. Il y a différentes, raisons, mais il faut vraiment se méfier, savoir où on met les pieds, quoi. Alors il y a des choses qui sont quand même valables, mais c'est difficile de discerner vraiment ce qui est valable, authentique, ce qui peut être utile, de ce qui ne l'est pas. Tant que nous-mêmes, on n'a pas une vision claire des choses, c'est difficile pour nous de discerner. De faire la différence entre les choses dangereuses et celles qui ne le sont pas. Donc c'est ça aussi la problématique de notre époque. C'est que tout le monde a l'impression de pouvoir faire tout, n'importe quoi, et que il y a des règles dans la vie, il y a des règles, on ne peut pas s'improviser médecin, hein, on ne peut pas s'improviser thérapeute, on ne peut pas s'improviser... biologiste, il y a toute une formation, même si c'est quand même que des sciences extérieures, il faut être compétent. Et bien c'est pareil, pour soigner les autres, il faut être compétent. Donc ça réunit plein de paramètres, forcément. Voilà, allez, la dernière question, puis on va arrêter pour aujourd'hui.
Vous disiez, Lama, que vous donniez des enseignements comment devenir de meilleurs êtres humains.
C'est devenir un meilleur être humain, c'est voilà. Le thème. C'est-à-dire que je ne donne pas des solutions toutes faites. J'amène les gens à réfléchir sur certains points pour qu'ils puissent faire le travail eux-mêmes.
Dans quel centre, à quel endroit, quelle date?
Ben là, je viens de donner déjà une première approche à notre centre d'Aurillac et j'ai commencé aussi déjà un premier renseignement donc dans un centre au Boulin de Castin à Saubus dans les Landes où je suis appelé à revenir là plusieurs fois dans l'année pour continuer donc ce cycle d'approfondissement. Alors ça, évidemment, on peut vous transmettre, si vous me donnez votre email, je peux vous envoyer... l'adresse, etc., si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas encore trop diffusé cet enseignement, bien sûr, partout. Je commence seulement à le remettre un peu au bout du jour et à l'enseigner. Donc, il n'y a que dans quelques endroits que je le donne, comme ça. Mais de toute façon, on est obligé d'y venir, ça c'est clair. Voilà, donc je vous remercie déjà pour aujourd'hui de votre attention. On a commencé à voir un peu les quatre nobles vérités. La prochaine fois, on va vraiment éplucher ce qu'est la noble vérité de la souffrance pour le prochain samedi. On va voir les différentes formes de souffrance. Et Donc, si ça vous intéresse de continuer, eh bien, vous êtes le bienvenu pour approfondir ça et de pouvoir échanger aussi entre nous, bien entendu. Voilà. Et comme pour terminer, comme nous sommes des gens généreux, eh bien, on va offrir tous les mérites de ce qui a été entendu aujourd'hui pour le bien de tous les êtres. Et ça va être exprimé à travers cette récitation en tibétain, cette prière que je vais faire. Il y a certains qui la connaissent parmi nous, bien sûr. Jidang go wa mulam dum pa.